Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, bon réveil et belle matinée, c'est vendredi. On est ensemble jusqu'à 9h, vendredi 6 février 2026. C'est bientôt le week-end et surtout... C'est parti. Et c'est l'événement qu'on attend tous les 4 ans. Début ce soir des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina, RMC, radio officielle de la compétition. Vous ne manquerez rien. Aucune médaille française en écoutant RMC, nos journalistes, nos envoyés spéciaux, les meilleurs consultants, tous les moments forts de ces JO, eh bien, ils seront à vivre sur RMC. Cérémonie d'ouverture à 20h. Dans 10 minutes, nous serons en direct avec l'une de nos envoyés spéciaux sur place, avec l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Julien Richard, avec la triple médaillée olympique, consultante RMC, biathlon, Anaïs Chevalier-Boucher, la France qui va faire une razzia de médailles, notamment en biathlon. Voilà ce qu'ils nous diront. Ils nous diront quoi regarder, écouter, attendre. Et ce sera à 7h10. Et vous, est-ce que ces jeux vous font rêver? Et allez-vous les suivre, bien sûr. Venez nous raconter au 3216 et sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Dans un instant, le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo, Géraldine. Il est 6h59 et il y a déjà de grosses vagues en Méditerranée et des risques de crues dans l'Ouest.
Exactement, ça va encore être une journée très agitée et on se méfie avec ces vigilances orange pour les vagues submersion sur la Corse du Sud, sur les Alpes-Maritimes. Ça, c'est jusqu'à midi. Et puis les vigilances crues qui restent d'actualité pour la Gironde et pour le Finistère. Donc agité encore avec donc beaucoup de vent ce matin sur la Corse en particulier. Sur les deux tiers nord, on va avoir de la pluie. Puis une fois que la pluie sera passée, on va avoir des averses, parfois orageuses avec beaucoup de vent. On va quand même retrouver du soleil dans le sud entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Et puis on garde toujours des températures bien au-dessus des normales de saison. On est 6 à 8 degrés au-dessus des normales ce matin. Cet après-midi, il fera 11 à 13 degrés pour la moitié nord et on pourra aller jusqu'à 17 degrés dans le sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Bon réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Éclaboussé par l'affaire Epstein, Jacques Lang, convoqué par le ministère des Affaires étrangères à la demande d'Emmanuel Macron, inquiet de possibles répercussions sur l'Institut du monde arabe présidé par l'ancien ministre. Les jeux vidéo violents dans le viseur justement d'Emmanuel Macron, le chef de l'État va demander à une commission scientifique de se pencher sur l'impact de ces jeux sur la santé mentale des plus jeunes et n'exclut pas de les interdire. Et c'est parti pour deux semaines de glisse. Les jeux d'hiver de Milan Cortina débute ce soir sur RMC, radio officielle de la compétition.
L'étau se resserre ce matin autour de Jack Lang.
Cité à plus de 670 reprises dans les nouveaux documents de l'affaire Epstein révélés la semaine dernière, le président de l'Institut du Monde Arabe, poussé vers la sortie, va devoir s'expliquer sur ses liens avec le criminel sexuel américain à la demande de l'Élysée. L'ancien ministre est donc convoqué, Romain Cluzel, par le Quai d'Orsay.
Une convocation devant le ministère des Affaires étrangères parce que l'Institut du monde arabe présidé par Jack Lang est sous la tutelle de ce ministère. Et cette convocation, elle se fait à la demande expresse d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'entourage du président de la République appelle Jack Lang à penser à l'institution, une manière pour l'Élysée de pousser l'ancien ministre de la Culture à quitter ses fonctions. Les appels plus directs à sa démission se multiplient ces dernières heures au sein de la classe politique après les révélations sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Des liens financiers avec le prédateur sexuel américain mort en prison en 2019. Jusqu'ici, Jack Lang exclut de démissionner et évoque sa naïveté face au profil de Jeffrey Epstein.
Nouvel épisode dans le dossier Betaram avec la mise en examen, la deuxième dans ce dossier, d'un ecclésiastique d'une soixantaine d'années soupçonné de viol sur un élève au début des années 90. Ce dernier a porté plainte pour des faits qui ne sont pas prescrits. Après les réseaux sociaux, Emmanuel Macron veut s'attaquer aux jeux vidéo. C'est la nouvelle piste du chef de l'État qui élargit son spectre contre les dérives du numérique. Dans une interview aux médias bruts, Emmanuel Macron ouvre la porte à une possible interdiction aux plus jeunes.
Il est clair qu'on a des jeux vidéo violents, qui conditionnent à la violence, qui créent une excitation, une dépendance, où on a des jeunes et des ados qui vont passer des heures et des heures, qui parfois vont pas dormir, donc on a des troubles du sommeil et autres. Et maintenant, on va se poser la question, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques qui vont nous dire quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire.
Un conseil d'experts va donc être saisi du sujet dans les mois à venir, mais vous allez l'entendre, les professionnels de la santé mentale, Lou Garnier, ne sont pas forcément convaincus d'une telle mesure.
Fuck Armes de guerre, combats sanglants, dans de nombreux jeux vidéo, la violence est omniprésente. De quoi transformer le comportement de certains jeunes joueurs, selon Lise Barthélémy, elle est pédopsychiatre.
Ils sont confrontés à un univers virtuel où ils sont dans la destruction. Pour eux, un niveau de violence important, c'est banal. Et donc, si à leur tour, ils ont à des moments de difficulté, d'excitation, de débordement, besoin d'être violents, ils vont pouvoir l'être de façon absolument extrême.
Si elle reconnaît que certains jeux violents ne sont pas adaptés à tous les âges, Vanessa Lalo, psychologue spécialisée dans les pratiques numériques, estime au contraire qu'ils peuvent canaliser une certaine forme de violence.
Le jeu vidéo de tout type peut avoir un effet défouloir, cathartique.
Et en cas de violence, ce ne sont pas les jeux vidéo le problème, mais des pathologies non diagnostiquées chez les joueurs, selon elle.
Au départ, il y a un trouble, et il se trouve que le trouble, on n'a pas réussi à le voir au quotidien, ni à l'école, ni dans la famille, et qu'à travers le jeu vidéo, d'un coup, la pathologie se voit.
Elle appelle au respect de la signalétique PEGI qui recommande l'âge à partir duquel un jeu est conseillé.
Première nuit en prison pour l'adolescent de 14 ans qui a poignardé sa professeure d'art plastique à Sanary. Il a été placé en détention provisoire hier après sa mise en examen pour tentative d'assassinat. L'enseignante se trouvait toujours dans un état préoccupant hier soir. Et puis ne manquez pas dans le journal de 7h30 le témoignage RMC d'un père de famille. Il est intervenu vendredi dernier pour mettre fin au calvaire d'une jeune fille tabassée à terre devant son collège de Saint-Genis-Laval près de Lyon. Les deux adolescentes de 14 ans mises en cause dans cette affaire ont été interpellées et placées en garde à vue hier. Il est 7h05, vous écoutez RMC. L'Iran appelle au respect mutuel ce matin avant l'ouverture des négociations de la dernière chance entre Washington et Téhéran à Oman. Discussion bilatérale après plusieurs semaines de tensions entre les deux capitales qui semblent désormais privilégier la voie diplomatique. Il reste pourtant quelques points de désaccord, Inès Zegloul.
Loin d'être aligné, ne serait-ce que sur l'ordre du jour de ces négociations. Téhéran s'est montré de son côté très clair, ce sera le nucléaire et rien d'autre que le nucléaire. Mais des garanties sur les stocks et l'enrichissement de leur uranium ne suffiront pas, répètent les Américains. Pour que ces pourparlers aboutissent, disent-ils, eh bien il va falloir aborder plusieurs sujets. La répression orchestrée par Téhéran sur son territoire, son soutien à certains groupes armés de la région, mais aussi son programme balistique. Autant de lignes rouges pour la République islamique qui ne semble pas prête à flancher, souligne Thierry Coville, chercheur spécialiste de l'Iran. Et ce, malgré le déploiement de l'armada américaine dans la région et la menace de bombardement que Donald Trump laisse planer.
Il essaye de faire peur, de déstabiliser pour arriver à ses fins. Donc pour l'instant, on peut dire que ça fait partie de sa stratégie de négociation.
Un accord ou la guerre, semble dire la Maison Blanche. Nous disposons de nombreuses autres options que la diplomatie, rappelait hier encore Washington.
Et puis du nouveau, ce matin au Groenland, où la France et le Canada ouvrent leur consulat en opposition au projet américain de prendre le contrôle de ce territoire autonome danois. Carton plein pour le 15 de France, étincelant face à l'Irlande. Hier soir, en ouverture du tournoi Destination, la France confirme son statut de favori. Victoire 36-14 avec en prime le point de bonus offensif, grâce notamment aux deux essais de l'incontournable Louis Biel-Biarré, très en forme hier soir.
Ça faisait quelques années qu'on démarrait le tournoi de manière un petit peu mitigée. Donc là, on est content d'avoir gagné avec le bonus et avec la manière. Même si on a ce petit trou d'air de 15-20 minutes en seconde mi-temps qui nous rappelle à la réalité, qui est que lorsqu'on est de nouveau indiscipliné, on a quelques mots qui reviennent. Oui, je pense qu'on a tous pris du plaisir, que ce soit en attaque mais aussi en défense. On a fait une grosse partie en défense. Mais sinon, je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir ce soir, que ce soit dans le jeu, on a réussi à faire des belles actions, faire des beaux lancements. Donc je pense que si c'est ça qui appelle la flamme, je pense qu'on l'a retrouvé.
Et on retrouvera le 15 de France la semaine prochaine en terre galloise. Ce sera à vivre sur RMC. En attendant, c'est l'autre événement que vous allez vivre sur notre antenne RMC Radio Officielle, des Jeux Olympiques d'hiver de Milan, Cortina, en Italie, dès ce soir, avec Christophe Cessieux pour la cérémonie d'ouverture, ou plutôt les cérémonies d'ouverture, Morgane Maury.
Ces Jeux Olympiques d'hiver sont éclatés entre Milan et les montagnes du Nord et du Nord-Est. La cérémonie, ce sera des cérémonies parallèles, le biathlète Émilien Jacquelin.
Ouais, c'est triste ça aussi, hein. Mais je pense que ça fait partie des jeux du futur où les sites seront un peu plus éclatés et c'est peut-être quelque chose qu'il faut accepter.
Des défilés à Milan, Cortina, Predazzo, la snowboardeuse Chloé Trespeuge va porter le drapeau de la délégation française à Livigno. Derrière elle, les skieurs masculins basés à Bormio feront le court voyage pour l'accompagner comme Clément Noël, l'autre porte-drapeau.
Très content de partager ce moment avec tous les athlètes du site de Livigno et ceux de Bormio qui vont venir, avec Clément Noël, mon collègue porte-drapeau. Donc ça va être trop chouette, j'ai hâte de vivre ça.
Le biathlète Quentin Fillon-Maillet rêvait d'être porte-drapeau. La proximité de sa première course et la distance avec Cortina l'ont empêché de candidater. Pour ses premiers JO, son partenaire Oscar Lombardo défilera.
Justement, de voir un petit peu aussi le cycle en France, parce que au final, nous, on est tout seul ici. Hein. Donc autant en profiter au moins une fois dans ma vie.
Des JO éclatés, une tendance qui va se poursuivre pour les prochains Jeux Olympiques 2030 en France.
Et justement, ces Jeux Olympiques dont vous parliez à l'instant, Thibaut, coup d'envoi ce soir, 20h, des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Ça se passe sur RMC, radio officielle de ces JO, ski alpin, biathlon, snowboard, patinage artistique évidemment, ou encore hockey sur glace. Vous ne manquerez rien de la compétition sur notre antenne. Et notamment grâce à vous, Julien Richard. Bonjour Julien.
Pauline.
Journaliste RMC Sport, et vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place en Italie pour couvrir l'ouverture ce soir et puis les JO derrière. À vos côtés, il y a Anaïs Chevalier-Boucher qui est triple médaillée olympique de biathlon, consultante RMC pour ces Jeux. La France, elle peut battre son record de médailles. C'est votre parti pris à tous les deux dans un instant. Vous allez nous donner vraiment toutes les clés pour nous accompagner dans ces JO. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, est-ce que vous allez vous passionner pour la compétition? Qu'est-ce que vous attendez en particulier? Quelles épreuves? Dites-nous au 32-16 ou sur le WhatsApp de l'émission 06-12-424-424. A tout de suite, 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 sur RMC et RMC Story. L'événement ce soir sur RMC, cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Milan-Cortina. Il y aura 2900 athlètes, 116 épreuves, 16 disciplines. Et vous ne raterez rien de la compétition sur RMC puisqu'on est la radio officielle des JO en Italie, qu'on va suivre avec vous, Julien Richard, journaliste RMC Sport. Bonjour Julien. Et à vos côtés, Anaïs Chevalier-Boucher, consultante RMC pour ces JO d'hiver, triple médaillée olympique de biathlon. Vous nous le dites tous les deux ce matin, c'est la France, elle peut réagir, elle peut réussir ses très très grands jeux, elle peut même battre ses records, y compris en biathlon, Julien.
Oui, sachant que il y a 4 ans, le biathlon avait rapporté quand même la moitié des 14 médailles de l'ensemble de la délégation française, notamment les 2 médailles d'argent d'Anaïs qui est juste à mes côtés. Et puis cette équipe de France, Anaïs, elle est tout simplement amenée par ce qui se fait mieux cette saison sur le biathlon. Les deux leaders, les deux numéros 1 mondiaux, Éric Perrault et Lou Jean Monod.
Oui, les deux néo-olympiens qui ont vraiment des profils similaires. C'est leurs premiers Jeux Olympiques, ils sont leaders de la Coupe du Monde, ils ont des statistiques de tir qui sont excellentes. Il y a vraiment de grandes chances de médailles pour eux. La petite subtilité, c'est que Lou et Eric, ce sont leurs premiers Jeux Olympiques, ils connaissent pas l'événement, mais voilà, on a beaucoup d'espoir en eux parce que c'est déjà des grands champions.
Et vous avez entendu derrière, Apolline, peut-être les loups, ça c'est le chant de ralliement des supporters français. Vous allez pouvoir l'apprendre et le chanter, certainement, tout le monde l'espère.
C'est ce que j'allais dire, c'est que ça y est, on va s'y habituer à ce loup. Alors donc, on a nos
deux... C'est pas compliqué à apprendre et à retenir, c'est ça l'avantage.
Je l'ai, Julien. On a nos deux têtes d'affiche du biathlon, mais on a aussi d'autres chances de médailles dans la discipline, Anaïs.
Oui, clairement, on a une chance de médaille sur chaque course, voire plus. On peut rêver. Les Français, ils ont été vraiment dominateurs sur le début de la Coupe du Monde cette saison. Après, c'est des Jeux Olympiques. Tout le monde sera prêt, mais je pense qu'il faut vraiment avoir espoir en eux. Ils sont préparés pour. Et ils sont tous déjà presque médaillés mondiaux ou olympiques. Donc voilà, on a Quentin Fillon-Maillet qui a quand même 5 médailles olympique aux derniers Jeux Olympiques. On a Émilien Jacquelin qui est double champion du monde, Justine Vrezès-Boucher qui a une médaille olympique, Julia Simon qui a 10 titres de championne du monde. Donc on va pouvoir faire nos choix.
Et alors, si on élargit au-delà du biathlon, quels seront d'abord les temps forts de l'équipe de France, Julien?
C'est vrai qu'au-delà du biathlon, il y a les leaders que l'on connaît, comme Clément Noël, qui est déjà champion olympique du slalom, qui pourrait réaliser quelque chose que personne, aucun skieur alpin n'a jamais fait, conserver son titre olympique. On a la danse sur glace avec Guillaume Cizeron, qui était champion olympique il y a 4 ans avec Gabriela Papadakis. Alors cette fois, il est avec Laurence Fournier-Baudry et il va tenter là encore de gagner à nouveau un titre olympique. Et puis il y a la France qui pourrait briller dans pas mal de disciplines. On pense au snowboard cross, le patinage de vitesse, le ski freestyle. Il y a des noms que vous allez peut-être découvrir et des disciplines comme Timothée Loubineau qui a été cette saison en forme et qui a notamment battu le record du monde en patinage de vitesse, donc en longue piste. Et puis il y a des petits nouveaux, le ski alpinisme, ça fait son apparition aux Jeux Olympiques. Vous allez voir, c'est ultra spectaculaire, c'est du ski où on monte dans un premier temps avec des pots de phoque sous les skis très vite, c'est extrêmement cardio, et puis derrière il faut redescendre, donc c'est extrêmement spectaculaire. Et la France est au sommet puisque vous allez retenir ces noms: Émilie Arop, Thibaut Anselmé, qui sont favoris pour l'or olympique sur ces nouvelles disciplines.
Extra, et vous savez quoi, depuis ce matin, évidemment, on a des auditeurs qui nous appellent pour nous dire ce qu'ils attendent de ces JO, à quel point ça les fait vibrer. Et alors, il y en a un, on voulait vraiment pouvoir vous donner la parole, c'est Arnaud. Bonjour Arnaud. Arnaud, oui, vous êtes prof de PS à Amiens, et on vous a posé la question à tous, est-ce que vous allez suivre ces JO? Je crois que vous avez une raison particulière de les suivre.
Oui, carrément, ouais. Ben, mon frère va y participer, donc pour la première fois, à 28 ans. Donc c'est quand même une sacrée chance, et toute la famille est super fière de lui.
Bah j'imagine. Alors c'est pas qu'une chance, hein, parce que s'il y est, c'est qu'il a vraiment, il le mérite. C'est exactement. Qui votre frère, Arnaud? Dites-nous.
Alors c'est Antoine Rioux, qui est en équipe de France de bobsleigh.
D'accord.
Il fait partie des pousseurs. Bon, là ils sont quatre. Et il va participer pour la première fois, donc franchement c'est super.
C'est génial. Donc ce soir vous serez où pour regarder la cérémonie d'ouverture, vous?
Alors je serai chez moi avec ma famille, je vais regarder à la télé. Ouais. Ça fait un petit peu loin, puis avec le travail là c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas on va être devant la télé, on va le supporter, et puis voilà, en espérant qu'il fasse. Alors l'objectif ça serait pour eux de faire déjà un top 10, ça serait déjà top.
Ok, et ben vous savez quoi, comme c'est la famille RMC, on va le suivre aussi, lui en particulier. Franchement, c'est extra. Merci à Arnaud d'avoir aussi partagé avec nous cet enthousiasme familial. Bah oui, les JO, c'est aussi derrière des équipes, des familles. Julien et Anaïs, dites-nous aussi ce que vous attendez de la cérémonie ce soir, à quoi il faut s'attendre, en particulier nous.
Alors on sera assez loin du grand défilé sur la scène des Jeux de Paris, hein, mais à l'image de ces Jeux finalement qui ont des sites éclatés, ce sera une cérémonie éclatée avec deux vasques olympiques, c'est une nouveauté, une au Stade San Siro à Milan et puis une autre à Cortina, donc dans les Dolomites. Il y aura des défilés d'athlètes à Livigno également et Predazzo. Avec des stars, hein, toujours dans les cérémonies d'ouverture, l'esprit italien, Laura Pozzini, Andrea Botticelli, Cecilia Bartoli, mais aussi le pianiste Lang Lang, ou encore la méga star américaine Mariah Carey. N'y voyez aucun lien, Apolline, mais la pluie est annoncée au rendez-vous ce soir. Ça sera peut-être le seul
point commun. Ah, la petite déception, ouais, le petit bémol.
Petit point oui. commun avec la cérémonie des Jeux de Paris.
Finalement, on l'a fait, hein. On l'a fait cette cérémonie sous une pluie battante. Merci Julien Richard et Anaïs Chevalier-Boucher. Vous serez vraiment nos voix aussi, et c'est vous qui allez nous accompagner en particulier tout au long de ces JO, ces Jeux Olympiques d'hiver. Ils sont à suivre sur RMC, radio officielle de la compétition. Les médailles françaises, les moments importants, vous ne raterez rien de ces JO. En écoutant RMC, c'est un grand, grand plaisir que ça s'ouvre ce soir. Il est 7h19, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur avec vous comme chaque matin, on va remonter le temps et on va s'intéresser à Jeffrey Epstein, dont les mails sont au cœur de l'actualité.
Mais oui, comment un prof de maths raté est devenu le proxénète des grands puissants? Même mort, Epstein fait aujourd'hui trembler l'élite du monde entier.
Vous nous le dites dans un instant, il y a Arnaud Demange qui va venir aussi pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans une minute sur RMC, il est 7h19.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et on remonte le temps avec Arthur Chevalier comme chaque matin. Arthur, le dossier Jeffrey Epstein fait trembler la planète, de Donald Trump à Bill Clinton, en passant par Bill Gates et Woody Allen, des personnalités de tous les horizons, de tous les pays qui apparaissent dans les documents publiés par la justice américaine, et des Français aussi qui sont cités. Hein.
Et oui, et commencer par l'ancien ministre Jack Lang, hein, qui connaissait bien Jeffrey Epstein. Les appels à la démission de son poste de président de l'Institut du Monde Arabe se multiplient. On a appris hier que cette figure de gauche est aujourd'hui convoquée par le ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur ses liens avec le prédateur sexuel. Pour l'instant, il exclut de démissionner.
Alors, avec vous, Arthur, on va prendre aussi le temps de comprendre qui était-il, ce Jeffrey Epstein?
Mais oui, au début, c'était pas grand-chose. Il est né en 1953 dans une famille modeste de New York, à Brooklyn. Il rate ses études avant de devenir prof de maths dans une école pour gosses de riches. Grâce à son bagou et à sa tchatche, il parvient à devenir banquier à Wall Street, mais sa carrière d'arnaqueur va commencer très vite. Hein. On découvre tout de suite qu'il avait menti sur ses diplômes et qu'il falsifiait ses notes de frais pour payer des bijoux et des robes à ses maîtresses. C'était le début.
Comment il fait une telle fortune?
Alors d'abord en arnaquant des riches avec des investissements complètement bidons, mais une rencontre va changer sa vie. Cette rencontre, c'est avec Les Wexner. Alors, qui est Les Wexner? C'est un milliardaire, propriétaire entre autres de la marque Victoria's Secret. Epstein lui fait un numéro de charme, ça fonctionne. Wexner le prend comme conseiller et Epstein ne va pas se gêner. Hein. Il va littéralement piocher dans la fortune de son bienfaiteur. Voyage, jet privé, villa, il ne se refuse rien. Il achète d'ailleurs une propriété à Palm Beach, la ville de Donald Trump. C'est là-bas que Trump et Epstein vont devenir amis. Et c'est à cette époque qu'Epstein commence à forcer des mineurs à se prostituer.
Il va bâtir un réseau de relations tentaculaires.
Oui, Apolline, pour comprendre Epstein, il faut comprendre que cet homme avait un pouvoir de séduction absolument délirant. Hein. Il savait parler de tout, il savait parler d'argent, il savait parler d'art, il savait faire la fête et surtout organiser des fêtes. En 1998, il achète une île privée dans les Caraïbes, une île où il invitait la terre entière. Il y avait de la drogue, de l'alcool et bien sûr des mineurs, là encore, qui se prostituaient. Epstein devient le proxénète des puissants.
Sa mort est, elle aussi, entourée soi-disant de mystères.
Oui, oui, en 2019, Epstein est accusé de trafic sexuel en bande organisée de mineurs. Le FBI l'arrête un mois après son incarcération. Il est retrouvé pendu dans sa cellule. C'est justement cette mort qui nourrit les fantasmes. Avait-on intérêt à faire disparaître un homme qui en savait trop? C'est la question que certains se posent.
On a l'impression d'assister au plus gros scandale mondial de ces dernières années.
Eh oui, et c'est le cas. Dans les dossiers Epstein, il y a des emails, des photos compromettantes, des comptes en banque, le tout parsemé de noms de gens très puissants. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous ont participé au trafic sexuel. À ce stade, c'est dur de faire le tri. Mais ça concerne des hommes politiques, des familles royales, des artistes, des milliardaires de tous les pays. L'affaire Epstein, Apolline, c'est une bombe à fragmentation qui touche l'élite du monde entier et nous ne sommes qu'au début.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois l'historien Jean-François Colosimo, auteur de L'Occident, ennemi public numéro 1.
Et oui, Apolline, l'Occident, c'est l'ennemi numéro 1, surtout en janvier. On a abusé après les fêtes, trop de raclette. C'est le moment de faire un régime anti-Occident. Alors Jean-François Colosimo viendra à 8h30 nous présenter ses meilleures recettes détox. Mais non, je déconne, oh là là, on va parler de la guerre. C'est vendredi, c'est fin de semaine, faut se détendre un peu avec des trucs légers. D'ailleurs, j'ai regardé la liste de ses livres à Colosimo, il y a L'Apocalypse russe, République ou barbarie, Aveuglement, religion et guerre. La crucifixion de l'Ukraine. Ce matin, c'est LOL qui ressort hein, dans le face-à-face. Racontez-lui une bonne blague de Melon et Melèche. Mettez un coussin péteur sur son fauteuil. On va rigoler. L'Iran et les États-Unis, hein, c'est le sujet. Ils sont toujours à ça de s'affronter. Aujourd'hui, des pourparlers ont lieu à Oman. Une rencontre États-Unis-Iran. Donald Trump, Ali Khamenei, le date de l'enfer.
Oh là là,
non mais s'il faisait le test de compatibilité à marier au premier regard, je pense qu'il serait en dessous des 80%. Mais j'ai envie de rester optimiste.
Oui.
Je suis sûr que ça va bien se passer, que Trump sera très courtois. Et alors, vous aussi, vous tirez dans les musulmans? Oui, mais uniquement les démocrates. C'est-à-dire, bah, ceux qui contestent le pouvoir, ils aiment pas que je sois le guide suprême. Tu sais que moi aussi, ils refusent de m'appeler le guide suprême. C'est les démocrates, ça. C'est les gauchistes. Toi aussi, tu détestes les démocrates gauchistes. On a tellement plus de points communs que ce que j'imaginais. Oh, Ali. C'est vrai, Donald, on se déchire, mais pourquoi? Ali, qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Oh, un string rose. Je n'en parle jamais à personne. Embrasse-moi.
Oh, quel génie!
Et Jack Lang va sortir de derrière un poteau. Si vous voulez, je peux filmer cette nuit d'amour
pour un documentaire.
Ali, tu sais que j'ai vu Donald à l'œuvre chez Jeffrey Epstein. Tu vas te régaler, mon salaud. Bref, Apolline, le facteur vous dépose votre Colosimo dans une heure. Pensez bien à le récupérer en loge pour pouvoir l'interviewer à 8h30.
Arnaud,
à tout à l'heure.
Que l'on retrouve tout à l'heure également à 8h20 et à tout moment en podcast.
Détendez-vous sur RMC avec Soupe de Com, une école du réseau compétences et développement.
Vous l'entendez, c'est la roue. C'est le retour de la roue RMC. Vendredi prochain, nous serons le vendredi 13 et la roue RMC est de retour jusqu'à 30 000 euros à gagner grâce à la roue RMC. 30 000 euros cash, net d'impôts. Dans quelques jours, donc, sur votre compte en banque. Pour jouer, vous envoyez 13, ça peut être en chiffres ou en lettres. 13 au 7, 32, 16. Attention, vous avez 10 minutes. Il est 7h27, vous avez 10 minutes pour jouer et pour vous inscrire. 13 au 7, 32, 16. Bonne chance à tous. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis, juste après le journal de 7h30, cette question. Faut-il interdire les jeux vidéo violents? Je vous attends aussi au 32, 16. À tout de suite. 7h29 sur RMC, c'est encore de la pluie, Géraldine.
Et encore des vigilances pour aujourd'hui, avec cette vigilance pour le risque de submersion pour la Corse du Sud et les Alpes-Maritimes jusqu'à midi. Toujours des vigilances crues pour la Gironde et le Finistère. Et oui, on va garder un temps très agité, on a beaucoup de vent encore autour de la Corse ce matin. Sur les deux tiers nord, de la pluie. Une fois que la pluie sera passée, on va avoir des averses avec pas mal de vent. Il y aura parfois aussi quelques éclaircies quand même. Et puis le soleil qui sera bien présent cet après-midi de l'Aquitaine à la Méditerranée. Température en hausse, on est largement au-dessus des normales de saison. 6 à 8 degrés au-dessus ce matin. Cet après-midi, on aura 12 degrés à Paris, Lille, 13 à Brest, Nantes, 14 à Lyon, 15 à Bordeaux, Marseille. Et on ira jusqu'à 17 pour Biarritz ou Perpignan.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Nouveau rebondissement dans l'affaire Betaram avec une deuxième personne mise en examen pour viol, un des rares cas pour lesquels les faits ne sont pas encore prescrits. Un témoignage RMC exclusif ce matin, celui du père de famille qui a mis fin au passage à tabac d'une jeune collégienne à Saint-Genis-Laval près de Lyon. Il raconte le déchaînement de violence auquel il a assisté. Et puis Fabien Galthié a bien fait de sélectionner Mathieu Jalibert. Le numéro 10 a surperformé hier pour son retour en bleu face à l'Irlande en ouverture du tournoi des Six Nations.
L'affaire Betaram prend un nouveau tournant ce matin.
Avec la mise en examen pour viol d'un deuxième membre de l'établissement catholique, le parquet de Pau l'a annoncé hier soir, et cette fois ça n'est pas un surveillant mais un ecclésiastique d'une soixantaine d'années qui est visé, un homme qui n'avait jamais été entendu par les enquêteurs jusqu'à cette nouvelle plainte, Constance Bostoen.
Oui, un ancien élève de Betaram a porté plainte pour des faits qui ne sont pas prescrits. Selon le procureur de Pau, il dénonce un viol commis par un ecclésiastique entre 1993 et 1996, alors qu'il est scolarisé dans l'établissement. Le prêtre, qui n'avait jamais été entendu depuis le début de la procédure, conteste les faits qui lui sont reprochés. Dans cette affaire, 250 anciens élèves ont déjà porté plainte et jusque-là, seul un ancien surveillant avait été mis en examen pour viol et agression sexuelle. Cela confirme l'intuition de départ de l'existence d'un réseau pédocriminel, réagit auprès d'RMC Alain Esquer. Le porte-parole du collectif des victimes de Betaram se félicite de cette nouvelle avancée et il exprime son immense reconnaissance à la victime.
Il est 7h32 et on vous en parlait hier sur RMC, l'agression ultra-violente d'une collégienne à Saint-Genis-Laval près de Lyon, agression filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis, la vidéo a été supprimée et deux adolescentes âgées de 14 ans ont été arrêtées et placées en garde à vue. Ce sont elles qui sont soupçonnées d'avoir roué de coups leur camarade à la sortie des cours vendredi dernier. Une scène insoutenable à laquelle ce père de famille a assisté avant d'y mettre fin. Il témoigne ce matin au micro RMC de Philippine Boulet.
Au volant de sa voiture, Marc reconnaît ne pas tout de suite comprendre ce qu'il se passe lorsqu'il aperçoit une adolescente au sol.
Il y a une fille qui s'est approchée d'elle, donc je pensais qu'elle allait l'aider à se relever ou voir ce qui se passait. Et au lieu de ça, elle lui a mis un coup de pied dans la tête. Un coup de pied, deux coups de pied, trois coups de pied, ça s'arrêtait pas.
Il sort de son véhicule.
J'ai dû crier quelque chose du genre « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas ?» ou quelque chose comme ça.
Les agresseuses présumées ont 14 ans. Un choc pour ce père de famille.
Cette fille-là qui lui mettait des coups de pied dans la tête au sol, alors qu'elle était déjà en perte de connaissance ou je me suis dit, c'est pas possible, une telle violence.
Pendant qu'une adolescente donne les coups, une autre enregistre la scène.
Je me suis dit, on est vraiment dans les stéréotypes de la violence d'aujourd'hui qui est filmée, qui est mise sur les réseaux. Là, de le voir, je me suis dit, mais en fait, c'est réel et ça peut être aussi dans le collège de mon gamin, quoi.
Marc aimerait maintenant rencontrer les parents de la victime et prendre de ses nouvelles.
À Sanary-sur-Mer, l'enseignante du collège La Guicharde, toujours dans un état préoccupant, et le collégien de 14 ans accusé de l'avoir poignardé, placé en détention provisoire. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a ouvert la porte à une interdiction des jeux vidéo aux mineurs, certains jeux les plus violents, si et seulement si un consensus scientifique émerge des travaux qui seront confiés au Conseil national du numérique au printemps prochain. Il est 7h34 sur RMC et c'est la question ce matin, où est passé l'argent dédié à la réindustrialisation de la France? On a atteint un niveau d'investissement record l'an dernier. Le gouvernement s'en était même félicité là, à l'occasion du sommet de Choose France. Et pourtant, Clara Gabillet, il n'y a jamais eu aussi peu de créations d'usines depuis 2013.
Oui, il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures d'usines en 2025. Des fermetures dans l'automobile, la métallurgie, l'imprimerie, le textile ou encore la fabrication de meubles. La courbe ne s'est jamais redressée pour ces secteurs, selon le cabinet d'analyse économique. Cela concerne particulièrement les PME, mais toutes les tailles d'entreprises sont concernées. L'industrie pharmaceutique est aujourd'hui au point mort. Les rares secteurs qui se portent un peu mieux, l'aéronautique, le traitement des déchets et la production d'énergie, qui ont donné lieu à peine plus de 5000 créations d'emplois l'an dernier. Bilan très sombre, hein, malgré les discours du gouvernement pour impulser une réindustrialisation. La réalité est que les investissements se portent davantage sur le numérique. Sur les 125 milliards d'euros mis sur la table l'an dernier, plus de la moitié concernait ce secteur.
Les précisions de Clara Gabillet pour RMC. Il est 7h35 et eux ne sont pas prêts à lâcher leur couronne du tournoi Destination. Les Bleus du rugby l'ont bien prouvé hier au Stade de France en battant l'Irlande 36-14. Les joueurs de Fabien Galthié qui ont retrouvé leur capitaine Antoine Dupont. Mais c'est surtout Mathieu Jalibert qui a brillé hier soir. Le numéro 10 était très attendu pour son retour en bleu, Julien Landry, et on peut dire qu'il a répondu présent.
Oui, tout le monde attendait de voir si Mathieu Jalibert étincelant avec Bordeaux allait éclairer le jeu des Bleus. Il a parfaitement assuré son rôle après une entame timide. Son essai à la 22e minute l'a libéré. Il ne voulait rien regretter.
Je voulais surtout ne pas avoir de regrets, donner tout ce que j'avais sur le terrain et sortir la tête haute.
Ensuite, il a enchaîné les gestes de classe, comme le petit coup de pied par-dessus pour laisser d'Olivon la passe décisive pour Atisokbe. Son coéquipier Louis Bielbiaré a apprécié sa partition.
Trouvé très bon, très à l'aise. Je suis très content pour lui et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec lui.
Même en défense, il s'est envoyé dans un secteur où il est scruté. Il termine avec un 11 sur 12 au plaquage, la récompense de son travail.
Là, ça fait maintenant 2 ans que je travaille énormément sur ce secteur et je suis content de voir que ça marche aussi au niveau international.
Un an après sa dernière apparition en équipe de France, il a probablement réalisé son meilleur match sous le maillot bleu, mais lui-même le sait.
Comme je dis, le week-end le plus compliqué, c'est toujours celui d'après, donc il faut continuer sur cette voie.
Et le prochain rendez-vous, c'est au Pays de Galles, dans 9 jours.
Et voilà, ce prochain match, le week-end prochain.
Le Quintet, Élise, 20h15 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Killer Rain. L'outsider, c'est le 7, Force of Nature.
C'était le journal d'Élise dans Jean, il est 7h36 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Face à la violence des jeunes, le président de la République veut une étude scientifique.
Il est clair qu'on a des jeux vidéo violent, qui conditionne à la violence. Et maintenant, on va se poser la question, quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire.
Emmanuel Macron était donc hier sur le média Brut. Et Mickaël Stora, vous serez avec nous dans un instant. Vous êtes psychologue, spécialiste des effets du numérique sur les comportements des jeunes. Pour vous, le président fait un peu un raccourci entre jeux vidéo et violence. Tuer n'est pas jouer, voilà ce que vous nous dites. Mais je vous attends aussi, vous tous qui nous écoutez sur RMC, est-ce qu'il faut interdire les jeux violents, les jeux vidéo violents? Je vous attends au 32-16. Dites-nous si vous-même vous êtes joueur ou si vos enfants jouent aux jeux vidéo. Vos témoignages au 32-16 dans un instant. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40, très bon réveil sur RMC et sur RMC Story. Face à la violence des jeunes, retour d'un vieux débat. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Le président de la République demande une étude scientifique pour trancher une bonne fois pour toutes cette question. Mickaël Stora est avec nous. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Ces jeunes qui seraient accros aux jeux vidéo, pointés du doigt également par le président de la République, qui s'interroge sur les liens entre jeux vidéo et violence et qui dit même qu'il faut réfléchir à les interdire. Comment vous réagissez?
Écoutez, premièrement, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne idée qu'on finance des études sur sur une forme de causalité qu'il y aurait entre pratique des jeux vidéo et passage à l'acte violent. Après, il y en a déjà énormément. Il y a des articles qui sont tout à fait bien faits, qui font un peu un état de l'art de cette question-là. Et en général, la plupart du temps, on perçoit plutôt l'inverse. C'est assez étonnant, mais la pratique des jeux vidéo chez des personnes qui vont plutôt bien a tendance à plutôt canaliser les pulsions agressives, et l'étude évoque surtout que si les personnes ont préalablement des problématiques de comportement, pathologique, eh bien oui, malheureusement, les jeux vidéo, mais comme d'autres médiums, peuvent entraîner de la violence.
Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. En gros, vous dites, et tout est dans les personnes qui vont plutôt bien. C'est-à-dire que la question, c'est que la violence ou le comportement déviant préexiste à l'usage des jeux vidéo. Et vous parlez même des jeux vidéo comme d'un médium, c'est-à-dire au fond, presque comme d'une drogue dans ces cas-là.
Alors non, dans le sens où finalement tout objet artistique peut avoir cette forme de vocation qui est celui d'une forme de médiation. Le jeu vidéo en effet a quelque chose de supplémentaire, c'est que l'identification à l'avatar est puissante, c'est une forme d'identification première et que donc à partir de ce moment-là, on voit bien comment la personne va finalement même dans des jeux dits narratifs se réinventer, s'inventer lui-même une propre histoire par rapport à ce qu'on lui propose. Mais il faut bien comprendre qu'à l'inverse de ce que l'on croit, dans un jeu vidéo, il y a des règles. C'est-à-dire qu'au fond, le jeu va résister quelque part à votre destructivité. Et donc, on n'est pas dans un espace d'une violence gratuite.
Il y a des règles et c'est une forme, comme vous dites, presque de catalyseur, parfois. Ce qu'on appelle la catharsis pendant longtemps, même dans le théâtre. L'idée qu'il valait mieux voir la violence sur scène que de la vivre dans son propre quotidien. Mathieu, il y a de nombreux messages.
Oui, alors on a eu beaucoup de gamers, comme on dit, qui nous ont écrit. Mais on a aussi des questions sur l'âge des enfants. Et Mohamed qui nous dit, ce débat sur les jeux, ça existe déjà, les règles, il faut juste que les parents jouent leur rôle, tout simplement. Tous les jeux ne sont pas adaptés à tous les âges.
Avec la question, effectivement, des règles, on va y revenir avec vous, Mickaël Sora, dans un instant, mais je voudrais aussi qu'on accueille le témoignage de Florent. Bonjour Florent.
Bonjour.
Florent, vous êtes boulanger à Montpellier. Vous, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo et est-ce que vous percevez une forme de violence ?
Alors, je joue aux jeux vidéo et comme disait votre intervenant juste avant, la violence, elle vient souvent d'avant. Et pour ce qui est des jeux, souvent, les jeux, ils portent des messages et des avis qui sont plutôt contre la violence, même le plus violent, notamment GTA. S'il y en a bien un qui va plus vous pousser à ne pas faire de conneries, c'est celui-là. Parce que jamais rien ne se passe comme vous voulez là-dedans. Du coup, c'est plutôt les
pour vous, GTA, c'est très intéressant parce qu'il y a un peu un fantasme autour de GTA. Ouais, à chaque fois qu'il y a une sortie de nouvelle saison de GTA, on a vraiment l'impression que ça va être de plus en plus violent, que ça va être l'enfer, que ça va être vraiment. Et vous, vous dites, au fond, c'est plutôt l'inverse. Vous, GTA, vous pousserez plutôt à ne pas être violent.
Bah ouais, au contraire, comme disait l'intervenant un peu plus tôt dans la matinée, qui avait parlé de Fortnite ou encore des jeux un peu plus qui peuvent paraître plus innocents comme même Minecraft ou encore Roblox, c'est l'aspect social où vous allez vous croiser et la frustration que vont avoir les joueurs et l'interaction qu'ils vont avoir entre eux qui peut être toxique et qui là ils vont être agressifs, contrairement à des jeux comme justement GTA ou même Call of Duty, quand tu je compte pas le multijoueur par contre, mais en solo.
Au contraire, ouais, c'est très intéressant aussi ce que vous dites sur la question des interactions sociales. Florent, restez avec nous. Je voudrais que Mickaël Sora puisse précisément réagir sur ce point. Mickaël.
Oui, alors on découvre évidemment que dans les jeux en ligne, il y a des socialisations qui peuvent évidemment, dans certains jeux comme Fortnite ou même dans d'autres comme League of Legends, on évoque des communautés parfois toxiques, c'est-à-dire que, oui, il y en a qui n'aiment pas perdre et qui peuvent être finalement... Alors, tout en sachant qu'il y a des garde-fous, parce que souvent, beaucoup de joueurs sont bannis lorsqu'ils dépassent certaines bornes, mais d'une manière globale, on voit même dans certains jeux en ligne qu'on appelle des mondes persistants, des communautés de joueurs très, très, avec une forte adhésion, voire même des relations amicales qui vont se nouer, avec des rencontres après in real life, comme on dit. Donc oui, d'une manière globale, il y a quand même des effets plutôt positifs par rapport, moi,
donc
à des
jeunes. Spontanément, et vous-même, Mickaël Sora, qui avez lu les quelques études qui effectivement existent déjà, vous ne seriez pas pour une interdiction, vous seriez quoi, pour un accompagnement?
Non, moi, je pense que comme pour d'autres décisions, il est important bien sûr d'accompagner, mais en effet, peut-être que c'est intéressant que au sein des familles, les parents puissent s'intéresser un peu plus à certains jeux. Pourquoi pas jouer eux-mêmes avec eux, ce qui existe déjà dans certaines familles, et d'arrêter de faire comme ça, entre autres du jeu vidéo, un objet de transgression et donc de convoitise. Je crois que là, l'interdit me paraît un petit peu excessif, surtout au vu de toutes les études internationales qui ont été menées sur la question de la violence des jeux vidéo.
Et la question, c'est évidemment aussi toujours que les parents ne se désintéressent pas de ce que font leurs enfants, qu'ils mettent le nez dedans, voire même qu'ils jouent avec eux. Je me souviens d'ailleurs une fois de vous avoir reçu, Michael Stora, et vous-même, vous disiez avoir des moments où vous jouiez avec votre fils notamment. Michael Stora, merci. Psychologue, psychanalyste et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et merci à Florent pour son témoignage et sa réaction. Florent Boulanger à Montpellier. Il est 7h46, c'est vendredi. C'est donc l'heure du débat droite-gauche. Ce CDI jeune, proposition du MEDEF cette semaine, a fait beaucoup couler d'encre. À part les patrons, personne ne soutient cette mesure. Et pourtant, le chômage des jeunes reste un vrai problème. Cécile Duflo, Charles Consigny, vous allez en débattre dans un instant. Si pas CDI jeune, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes et quelles solutions? Ça se passe sur RMC et c'est dans un instant. Il est 7h47.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, le débat droite-gauche. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, avec le retour d'un gros nom du rap français.
Ah, cette intro révélée cette nuit.
Un gros nom, mais c'est un grand nom quand même.
Un grand nom. Ouais, cette intro révélée cette nuit, quelques notes en ambiance tropicale. C'est le nouveau Booba qui a été diffusé cette nuit.
J'ai compté les billets, j'ai compté les années. J'aurais pu sur les carrosseries chromées.
Ça s'appelle Seychelles, ça a été publié donc dans la nuit. Premier extrait d'un nouvel album annoncé pour le printemps, Blanco Nemesis, ce sera son nom. Le duc de Boulogne, comme il se surnomme, revient sur le devant de la scène et sur les réseaux, où il a d'ailleurs répondu, non sans agressivité, à ceux qui l'accusaient d'avoir fabriqué ça à Paris. À Booba, il a de l'actu, puisqu'il vient aussi d'annoncer le retour de sa marque de vêtements, stoppée en 2018. Et il a aussi le sens de la promo, comme lorsqu'il fait coïncider la sortie de cette nouvelle chanson et des tweets chambreurs vis-à-vis des supporters marseillais. À deux jours du match OM-PSG, le nouveau Booba s'appelle Seychelles.
C'est bien renouvelé. Apolline Matin, le débat.
Il est 7h49 et c'est l'heure du débat RMC comme tous les vendredis. Nos deux débatteurs, Cécile Duflo, inutile de dire que c'est la voix de gauche. Charles Consigny, inutile de dire que c'est la voix de droite. Cette idée du MEDEF qui a agité la semaine, le mouvement patronal qui proposait un CDI jeune. Alors l'idée, c'était qu'il y ait une possibilité de mettre fin à ce contrat dans les trois premières années. Une rémunération inférieure au SMIC. Et ça devait toucher les jeunes qui sont vraiment les plus éloignés à la fois de l'emploi, des études. Un jeune de moins de 25 ans est sur 5 est au chômage. On fait quoi, Charles ?
On fait quoi ? En tout cas, on s'oppose pas par principe à toute mesure proposée pour essayer de sortir ces jeunes de cette situation. Moi, je suis pas sûr. Je pense que le MEDEF pousse un peu en proposant une rémunération inférieure au SMIC. Faut pas exagérer. Je pense qu'une rémunération au SMIC, c'est déjà pas bien élevé. Donc, ça peut quand même être un seuil qui vaut, y compris pour les jeunes sans diplôme ni emploi.
Parce que c'est ça aussi. Ce seraient les jeunes sans diplôme, sans formation, sans boulot.
Néanmoins, un contrat très souple qui permette de les faire rentrer sur le marché du travail, moi je pense que c'est une idée qui s'examine.
Trouver un contrat plus souple, en tout cas Charles. Cécile, on se souvient des emplois jeunes ?
Oui, on se souvient des emplois jeunes et on se souvient aussi, on sait ce qui fonctionne, notamment les territoires zéro chômeur. Il y a deux problèmes, il y a les jeunes au chômage et puis il y a les gens qui sont au chômage depuis très longtemps et qui ont du mal à retrouver un emploi. Le système des territoires zéro chômeur, ça a bien marché. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un accompagnement très proche, parce que c'est difficile. Je pense qu'avec les jeunes, en fait, ce qui marche, d'ailleurs, ce qui marche en Allemagne, ce qui marche dans d'autres pays, c'est plutôt d'avoir un accompagnement plutôt qu'essayer de les fragiliser encore plus. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être payé moins que le SMIC ? Moins que le SMIC, c'est 1200 euros net. J'ai fait un petit calcul, c'est 5 fois le pull de Charles Consigny. Comment on vit ? Comment on peut se loger ? Comment on peut vivre tout simplement ?
Je ne sais pas comment Cécile Duflo connaît le prix de mon pull, mais bon.
Je révélerai mes sources à la fin de cette émission, mais très sérieusement, ça dit quelque chose. C'est pas inutile de le dire, c'est de dire on peut pas se loger pour ce prix-là, on peut pas se projeter.
Voilà.
Et donc si en plus on est insécurisé dans son contrat, je pense qu'effectivement c'est de la provocation de la part de Patrick Martin, mais que là où c'est vrai, il faut trouver des solutions et il peut en exister. Mais il faut aussi chercher les causes. Qu'est-ce qui se passe en France ? En France, on a le taux de scolarisation des 15-19 ans, un des plus faibles de l'OCDE. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de décrocheurs, beaucoup de jeunes qui, à 15 ans, s'éloignent de l'école sans qu'on puisse les rattraper. Et ça prend naissance beaucoup plus tôt. Donc je pense qu'il y a quelque chose à nouer aussi, beaucoup plus tôt, dans la scolarité, pour emmener les jeunes sur un chemin où ils se sentent considérés et où ils ont des perspectives d'avenir.
Charles.
Je pense que tout ça, c'est quand même un peu, une espèce de verbiage pour habiller le fait qu'on est dans un pays où ça devient impossible d'employer quelqu'un, impossible de faire travailler quelqu'un et impossible de rémunérer quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre selon lequel 75% des Français estiment que le travail ne paye plus en France. Ils ont raison. Aujourd'hui, quand vous recrutez quelqu'un en France, il vous demande du télétravail, il se met la semaine après son télétravail en arrêt maladie, il prépare sa saisine des prud'hommes la troisième semaine, vous avez les syndicats dans les pattes dès la deuxième heure, et quand vous lui donnez 100 euros, il lui en reste 10. C'est ça la réalité de la France. Donc comment voulez-vous, dans une situation aussi bloquée, dans un pays qui est aussi ankylosé, et où il y a une telle paranoïa par rapport au travail, comment voulez-vous employer déjà les gens diplômés et qui sont plus ou moins sur le marché de l'emploi? Que voulez-vous qu'il reste pour ceux qui sont sans diplôme et qui sont éloignés du marché de l'emploi? Moi, je pense que les usines à gaz, notamment le territoire zéro chômeur, je me suis farci le rapport du plan sur le sujet il n'y a pas très longtemps, il se trouve que c'est quand même très coûteux pour les finances publiques, ce système.
Ça marche ultra bien.
À un prix très élevé pour les finances publiques. Moi, j'ai regardé un truc simple. J'ai regardé comment ça se passe aux États-Unis. Un pays sans chômage. Hein. J'ai regardé les comment ça se passe. Bah, c'est simple. Bah, les gens meurent aussi en France.
L'espérance de vie aux États-Unis réduit.
Ouais, mais c'est mieux. En France, on agonise dans des EHPAD. C'est mieux. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est simple. Tout le monde est au tarif proposé là par le MEDEF en termes de souplesse du contrat de travail. C'est-à-dire que vous êtes engagé très facilement, vous êtes viré très facilement. Quel est le résultat? Un pays sans chômage, un dynamisme économique énorme qui aujourd'hui nous écrase complètement. Donc moi, je pense que on doit s'inspirer de ce qui marche.
Alors, un pays qui va socialement très mal, où l'espérance de vie diminue, pour plusieurs raisons. Une épidémie de consommation de psychotropes, des suicides. Non, mais ça, sans commune mesure. Et puis des morts violentes par arme à feu. Par ailleurs, les gens aux États-Unis, effectivement, ils travaillent parfois 3 emplois pour réussir à vivre. Ils n'ont plus de vie. C'est ça le modèle que vous imaginez. Et ça crée un niveau de tension sociale. Donc, attendez, je voudrais reprendre parce qu'avant, il y avait, les gens qui veulent pas travailler ou dès qu'ils sont arrivés, ils sont en arrêt maladie. Et de l'autre côté, en fait, ils espèrent travailler. En vérité, en France, le travail est estimé par les Français. Au-delà de la nécessité de travailler pour avoir un revenu, c'est aussi un statut social, c'est aussi une identité. Donc dire que les Français, et en particulier que les hommes n'aiment pas travailler, c'est faux.
Mais sur ce chiffre, sur les Français qui considèrent que le travail ne paye pas.
Là, c'est vrai, ils ont sans doute raison. Ils ont raison pour une raison assez simple, c'est que depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de resserrer les salaires pour dégager de l'argent, historiquement, théoriquement, au profit des marges et pour améliorer l'investissement. En vérité, et la France a battu le record d'Europe pour distribuer des dividendes. Effectivement, la valeur ajoutée, la valeur créée par le travail, parce que sans travail, il n'y a pas de valeur créée dans les entreprises, elle est revenue beaucoup plus aux actionnaires qu'à ceux qui travaillent. Et c'est un problème. En revanche, le chiffre qu'a donné Charles sur si vous donnez 100, les salariés récupèrent 10, ça, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut se poser la question des critères de fiscalité, de savoir s'il vaut pas mieux fiscaliser autre chose, et notamment s'il vaut pas mieux fiscaliser le patrimoine. D'ailleurs, des syndicats d'entreprises le proposent, d'entrepreneurs, en particulier l'UDP, a proposé des solutions pour faire évoluer la fiscalité des entreprises. Mais on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, vraiment pas sur l'attachement au travail.
D'abord, franchement, en termes de consommation psychotrope, je pense que la France est largement devant les États-Unis, ne serait-ce que parce qu'en France, les antidépresseurs sont gratuits. Ensuite, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a... Quel est le problème en France? C'est qu'il y a des gens qui ont un emploi mais qui sont à peine à 35 heures et qui donc en fait sont dans une espèce de demi-emploi. Vous avez trop de gens qui sont sans emploi au sens qui ne sont pas sur le marché du travail alors qu'ils devraient y être. Des gens soit qui ne travaillent pas, soit qui ne travaillent plus parce qu'ils sont partis à la retraite trop tôt. Et c'est pour payer ces retraites, pour payer ce système social, qu'on se retrouve avec des charges délirantes. Je suis d'accord sur le fait que les actionnaires abusent, réclament trop de dividendes, etc. C'est une partie du problème. Oui, c'est une partie du problème sur les salaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaise foi de ce côté-là. Mais il y a aussi l'incroyable différence dont tous les Français sont conscients entre le brut et le net. Et ça, c'est quand même le grand sujet.
Merci à tous les deux d'avoir débattu ce matin. Charles Consigny, Cécile Duflo, tous les vendredis, c'est le choc droite-gauche et le débat sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h. J'ai pas su pour le pull de Charles, Cécile.
Alors, ce que Cécile ne sait pas, c'est que j'ai des prix à peu près dans toutes les maisons où j'achète des vêtements.
Mais soudain, en regardant Fatih, je me dis que je n'avais pas eu.
Parce qu'il les porte à la télé. Donc, Charles est subventionné par les entreprises de mode. Super. Influenceur mode.
Elle m'appréciait.
Pardon, mais je ne pouvais pas
désolé.
Ne pas finir ce duo de choc avec cette question-là. Dans un instant, le journal de 8h, je vous le disais, 20h ce soir, en Italie, ce sera le coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture des JO. Ce sera à suivre sur RMC, évidemment, mais on vous dit tout dès le journal de 8h. Météo, soleil au sud, pluie au nord. Et juste après le journal, il y aura l'économie avec vous, Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, c'est le retour. Oh, j'ai l'impression que c'est un running gag de ma prime Rénov.
Mais oui, le guichet rouvre. Mais attention, la file d'attente est longue.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Très belle journée à tous. C'est vendredi. On est ensemble. Il est 8h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est parti pour 2 semaines de ski, de biathlon, de patinage, de luge, de bobsleigh aussi. Les Jeux Olympiques d'hiver commencent aujourd'hui en Italie avec une cérémonie d'ouverture originale puisqu'elle se déroulera à 4 endroits différents. RMC est déjà sur place en direct ce matin. Vous allez voir dans ce journal que les collégiens n'ont pas vraiment le goût de l'effort. 1 jeune sur 5 n'est pas capable de courir plus de 3 minutes, chiffre qu'on vous a révélé sur RMC. Et vous allez entendre la gérante du bar de Cromontana, la nuit du Nouvel An. Elle a de nouveau été auditionnée cette semaine.
Les Jeux Olympiques d'hiver sont donc de retour en Europe.
Après 4 éditions, loin des Alpes, ce sont des Jeux nouvelle formule, puisqu'ils ne vont pas se dérouler à un seul endroit, mais dans tout le nord de l'Italie, de Milan jusqu'à Cortina. Il y a 7 sites de compétition. Vous en entendez à l'hymne officiel qui sera diffusé ce soir lors de la cérémonie d'ouverture. Léna Marjac, vous êtes en direct avec nous ce matin. Une des nombreuses journalistes d'RMC mobilisées pour couvrir cet événement mondial depuis la station de ski précisément de Bormio. Ça va donner une cérémonie d'ouverture originale ce soir.
Oui, une cérémonie finalement à l'image de ces Jeux, une cérémonie éclatée, dispersée, et là dispersée donc sur 4 sites. D'abord à Milan, au stade de San Siro, où une grosse partie de la cérémonie se déroulera avec notamment une star attendue, la chanteuse américaine Mariah Carey. Une première vasque olympique sera allumée à Milan par Alberto Tomba, l'ancien skieur italien, triple champion olympique. Et puis une deuxième vasque à Cortina d'Ampezzo, dans les Dolomites, autre lieu de la cérémonie. Enfin, Predazzo et Livigno sont les 2 derniers sites de cette grande soirée et d'ouverture des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, nos porte-drapeaux, le skieur alpin Clément Noël et la snowboardeuse Chloé Trespoche défileront à Livigno. Et là aussi, pas de défilé d'athlètes tous réunis dans un seul lieu. Les délégations seront dispersées sur ces 4 sites.
C'est inédit. Donc, Léna, la France fait partie des grandes nations des sports d'hiver. Et d'ailleurs, on y va avec de grandes ambitions à ces Jeux Olympiques.
21 médailles, c'est l'objectif fixé à cette délégation française composée de 162 athlètes. Alors évidemment, pour l'atteindre, on va compter sur le biathlon. En toute logique, c'est le gros pourvoyeur de médailles, avec notamment Éric Perrault et Lou-Jean Monod, les 2 leaders de la Coupe du Monde. En ski alpin, Clément Noël tentera aussi de défendre son titre olympique en slalom acquis il y a 4 ans. Guillaume Cizeron et sa nouvelle partenaire Laurence Fournier-Baudry seront eux aussi très attendus en patinage artistique. Et il ne faut pas oublier cette nouvelle discipline, le ski alpinisme. On grimpe dans la montagne à l'aide de pots de phoque sous les skis, puis on la redescend. C'est hyper physique, c'est impressionnant. Donc retenez bien ces 2 noms, Emilia Ropp et Thibaut Anselmé, 2 grands favoris au titre olympique.
On a bien retenu Léna Marjac et on va vous retrouver, vous et tous les journalistes d'RMC mobilisés, pendant ces 2 semaines, cette quinzaine de Jeux Olympiques, à commencer donc par cette cérémonie d'ouverture ce soir à 20h. Vous ne raterez rien de ces Jeux sur RMC, radio officielle. Je vous signale aussi que la presse italienne change de couleur pour l'occasion. Vous connaissez la Gazzetta dello Sport. Eh bien, la Gazzetta a troqué le rose, qui est sa couleur emblématique, pour un bleu glace ce matin. Alors chez nous en France, ce sont les Bleus du rugby qui font la une de l'actualité au lendemain de leur victoire, je dirais même leur belle victoire, 36-14 contre l'Irlande. C'était le début du tournoi Destination, match exceptionnellement un jeudi avec un doublé hier soir de l'ailier bordelais Louis Biel-Biarré. Alors on parle beaucoup de sport ce matin dans l'actualité et pourtant on vous révèle aussi depuis hier sur RMC ce constat alarmant, dirons-nous, puisque plus de la moitié des élèves en classe de 6e ont un niveau en sport jugé insatisfaisant. À 11 ans, écoutez bien, à 11 ans, 1 jeune sur 5 n'est pas capable de courir plus de 3 minutes sans s'arrêter. C'est le résultat d'une enquête inédite de l'Éducation nationale qui a fait passer des tests de sport à l'entrée en 6e. Amélie Courtet, on a interrogé quelques-uns à Créteil pour RMC.
Le sport pour ses élèves de 6e, c'est 4 heures par semaine au collège.
Les horaires, ça va, juste faut changer les sports là.
On court trop, ça fait trop mal aux mollets.
Courir, c'est chaud. C'est
tellement chaud que le niveau des 6e s'essouffle. Il est satisfaisant pour à peine un élève sur deux en force musculaire et en vitesse. Et c'est pire en endurance. Seulement un élève sur trois a un niveau correct.
Courir 5 minutes sans vous arrêter, vous êtes capable?
Ça dépend de la vitesse. On peut pas faire un sprint pendant 5 minutes.
C'est un peu épuisant des fois.
Oui. En plus, les profs, ils en demandent trop. On fait de notre mieux.
Faire de son mieux, surtout que les performances sportives sont très liées au milieu social des élèves, d'après l'enquête du ministère de l'Éducation nationale.
Payer des licences sportives, etc., il faut avoir les moyens.
Benjamin Nouvian, professeur de PS dans un collège, s'inquiète pour la santé de ses élèves.
En fait, on leur fait un test tout simple de souplesse, de laisser chercher nos pieds en étant les jambes tendues. On a plein d'élèves, ils descendent à peine en dessous des genoux, en fait, en termes de raideur, qui est un peu inquiétante, effectivement.
L'enquête montre aussi un écart de niveau en fonction du sexe. À l'âge de 11 ans, les filles sont encore moins sportives que les garçons.
Alors, ils n'ont pas le goût de l'effort et Emmanuel Macron lui se demande s'ils n'ont pas un problème avec les jeux vidéo. Dans la foulée du drame de Sanary-sur-Mer, l'adolescente de 14 ans qui a été écrouée et mise en examen pour tentative d'assassinat sur son enseignante mardi, le président relance le débat en demandant une étude scientifique sur les effets des jeux vidéo chez les jeunes, en évoquant une possible interdiction pour ceux qui sont dangereux. Il y a du nouveau dans l'enquête sur le drame de Crans-Montana, la nuit du Nouvel An, avec de nouvelles auditions cette semaine en Suisse, comme celle de Jessica Moretti, la gérante du bar Le Constellation, qui a été interrogée par les enquêteurs. Elle a aussi écrit avec son mari une lettre adressée à leurs salariés. Salariés qui s'étaient émus du silence du couple Moretti depuis le drame. C'est pour les raisons de l'enquête, a dit Jessica Moretti hier soir, écoutée au micro de BFM TV.
Le silence qui nous a été contraint est devenu insoutenable quand on a commencé à comprendre en fait la détresse des employés qui pouvaient se dire qu'on ne prêtait pas attention, qu'on n'a pas essayé de les contacter, et je peux comprendre leur colère légitime, je peux comprendre cette détresse. Et ça nous était devenu vraiment insoutenable d'envisager qu'en plus de tout ce qu'ils ont traversé, ils peuvent penser qu'on les a abandonnés. C'est très très loin d'être le cas, c'est juste par rapport à l'enquête. On vit complètement isolé. On n'a contact avec absolument personne, mais on se devait absolument d'écrire cette lettre. Elle vient vraiment du cœur et pour vraiment témoigner à nos employés que quoi qu'il arrive, ils restent dans nos cœurs, dans nos pensées, ce sont nos protégés, et même dans notre isolement, on est avec eux.
Et je précise qu'aujourd'hui, c'est le responsable incendie de la commune de Crans-Montana qui sera auditionné. Les négociations États-Unis-Iran ont commencé depuis une heure environ ce matin à Oman, sous tension, vous savez, dans le contexte de la répression iranienne et des menaces américaines, avec toutes les incertitudes que ça fait peser sur la région. L'Iran appelle, je cite, au respect mutuel.
Il est 8h07 sur RMC, la campagne municipale s'envenime à Paris.
Oui, Paris, où le candidat de la gauche, Emmanuel Grégoire, a eu la mauvaise surprise de voir la police intervenir lors d'une opération de porte-à-porte dans le 7e arrondissement de la capitale, qui est dirigée par la candidate de la droite, Rachida Dati. Et donc Romain Cluzel, du service politique à RMC, la gauche accuse la droite d'intimidation.
Parce que ce porte-à-porte dans un immeuble de logements sociaux, il avait lieu dans le 7e arrondissement de Paris. Et selon l'équipe d'Emmanuel Grégoire, ce n'est pas anodin. Rachida Dati est maire de cet arrondissement. Alors Yann Brossa, sénateur PCF et candidat sur la liste d'Emmanuel Grégoire, estime que Rachida Dati est à l'origine de cette intervention.
Madame Dati considère que son arrondissement lui appartient, que les immeubles, y compris les immeubles de logements sociaux dont elle ne voulait pas, lui appartiennent. Et donc elle ne veut pas que ses adversaires politiques et la possibilité de s'adresser simplement aux habitants de son arrondissement.
Il s'appuie sur un courrier de Rachida Dati datant de 2024, où elle dénonçait déjà un porte-à-porte du Parti communiste dans cet immeuble. Pour autant, Rachida Dati dément toute intervention. Ce sont des habitants qui ont appelé la police et en aucun cas elle ou son équipe. Nous ne sommes pas concernés par cette affaire, insiste une porte-parole de Rachida Dati.
On parle des municipales, je vous signale que c'est le dernier jour pour s'inscrire en mairie sur les listes électorales. Et puis le début des vacances scolaires, ce vendredi pour la zone B, Bordeaux, Lyon, Grenoble notamment, ça veut dire qu'il y aura du monde dans les stations de ski où le risque d'avalanche est encore élevé, niveau 4 sur 5 dans les Alpes du Sud, il a neigé sur un manteau instable.
Soyez donc prudents si vous y êtes. Merci Quentin Vinet, il est 8h09, c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Et revoilà ma prime Rénov, Emmanuel, le chiffre, elle est de retour dans quelques jours.
Effectivement, alors on va le rappeler, MaPrimeRénov', c'est une aide financière mise en place par l'État en 2020 pour accompagner les familles dans la rénovation énergétique de leur habitat, jusqu'à 90% des travaux remboursés pour les familles les plus modestes, dans la limite de 70 000 euros, à condition d'être le propriétaire du dit logement, le dit logement qui doit aussi avoir plus de 15 ans. Alors le dispositif avait d'abord été restreint en septembre aux ménages les plus modestes, puis suspendu en janvier, faute de budget. Mais comme nous avons à nouveau un budget, enfin non, comme nous avons enfin, un budget pour 2026, eh bien, le dispositif sera relancé courant février pour financer en priorité les rénovations globales et puis certaines rénovations particulières comme le changement d'une chaudière ou de fenêtre.
Qui pourra en profiter ?
Alors, à nouveau, tout le monde, même s'il y a évidemment une dégressivité dans les aides, plus vos revenus sont élevés, moins vous serez aidés. Le problème, c'est que ça se bouscule déjà au portillon. Mmh. Hein, l'Agence nationale de l'habitat prévoit de financer 150 000 travaux de rénovation isolés, 120 000 rénovations globales, sauf qu'il y a déjà 83 000 dossiers qui ont été déposés en 2025 et qui sont d'ores et déjà dans la file d'attente. Et donc, ce sera long, il va falloir prendre son petit bâton de pèlerin pour avoir son dossier.
C'est quoi la part de MaPrimeRénov' dans le budget ? Ça coûte combien en fait ?
Ça coûte 3,6 milliards d'euros, c'est autant que l'année dernière. Là où l'État s'en sort bien, c'est qu'en fait, il va en financer moins cette année lui-même, puisque ce sont les fournisseurs d'énergie, vous savez, grâce à ces certificats d'économie d'énergie, qui vont prendre une part plus importante. Alors après, reste le parcours du combattant, création de son compte, définition de son projet de travaux, obtenir les devis, déposer le dossier, attendre l'accord, réaliser les travaux, puis demander le paiement. Ouf, juste la principale erreur à éviter, il y en a plusieurs, des écueils, mais il y en a quand même une qu'il faut éviter, c'est de signer un devis avant d'avoir l'accord. C'est-à-dire que vous demandez les devis, vous envoyez votre dossier, et une fois que vous avez l'accord, vous validez les devis. Mais ne vous embarquez pas dans la signature d'un devis si vous n'avez pas l'accord. Imaginez, vous n'avez pas l'accord, vous avez signé le devis,
et vous vous retrouvez
de votre poche.
Merci Emmanuel,
8h11. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera l'historien Jean-François Colosimo. Il est passionnant, ne le manquez pas. Et puis juste après, il y aura la semaine face à Canteloup, bien sûr. Nicolas Canteloup, c'est tous les jours sur RMC à 8h50. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h14, quel bonheur. Arnaud de Manche, comme tous les jours. Bonjour Arnaud.
Bonjour tous mes amis. Comment allez-vous ?
Bonjour.
Juste avant le week-end, ça doit faire du bien. Bonjour. Apolline, je sais que vous êtes une femme de culture. Vous êtes une femme Télérama. Vous êtes une femme Barbara Gould. Alors, une infoculture qui va vous plaire. Michel Houellebecq sort un album.
J'adore.
De la musique.
J'avoue que j'aime Houellebecq.
Ils avaient tout leur temps. Ils n'avaient pas vraiment idée sur l'avenir.
Voilà, comme si le mois de février n'était pas assez sinistre comme ça. Alors vous avez vu, il s'emmerde pas à chanter, non. Mais point de vue son, ça va. Et il faut l'encourager. Hein. Je vous rappelle que l'an dernier, à la même époque, il s'essayait au porno amateur.
C'est vrai, je l'oublie.
On y gagne, il y a un upgrade. Au moins, il est habillé. Et puis, on va pas critiquer. Essayez de vous de chanter sans dents. Hein,
oui.
Allez-y.
Oh,
et alors, une autre petite actu. Ce soir, c'est le début du tournoi des Six Nations pour les amateurs de rugby. C'est la fin du Dry January. C'est le début du Beuvry February. Après, il y aura le Vomi March et le Sea Rose April. C'est une arnaque de dire Six Nations. Il y a la Grande-Bretagne, il compte l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. C'est triché. Évidemment que le Royaume-Uni a plus de chances de gagner, là. C'est, compter comme ça, c'est comme si nous, les hommes, on se la mesurait à partir des épaules. Ça ne compte pas, quoi. C'est triché. Je le dis avec mes mots à moi. Et vous avez compris. C'est une réalité mathématique à prendre
Mathieu
en compte.
Mathieu ne va pas s'en remettre, je crois. Et puis, tant qu'on parle de sport, tiens, c'est le début des Jeux Olympiques d'hiver, donc de Milan-Cortona.
RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
C'est moi qui
m'ai trompé. C'est bien Cortina parce que...
Ouais, c'est Cortina. Bon. Et oui, vous pourrez suivre toutes les épreuves sur RMC. Soyez là pour la cérémonie d'ouverture. Même si ce ne sera pas Thomas Joly à l'organisation, ce sera bien quand même. C'est dommage, il l'aurait présenté avec Daphné Husky. Et on a travaillé des mois entiers. On va mettre Philippe Catherine tout nu dans la neige. Là, il va vraiment devenir bleu. Il va y avoir Aya Nakamura au sommet d'un glacier qui va chanter son plus grand tube. Oh, gla, gla. Il n'y a pas moyen, gla, gla. Et puis, vous pourrez écouter sur RMC Vincent Moscato parler de patinage artistique. Il est spécialiste. Gilbert Bribois de parler de curling. RMC, l'after curling, Gilbert Bribois.
Eh oui, on est sur l'after curling, premier podcast de France sur le curling. Faut dire qu'on est les seuls de France à avoir un podcast sur le curling. Cette discipline passionnante, Daniel, où les joueurs passent le balai sur la glace. Daniel, tu aimes le curling, Daniel ?
Ouais, super, ouais, génial. J'en regarde tous les jours quand je vois les femmes de ménage passer le balai chez Picard en bas de chez moi, mais à part ça, c'est super.
Oh, Daniel, tu peux pas dire ça, Daniel. C'est du curling, Daniel.
On pourra donc découvrir ou redécouvrir le curling, le skeleton, le slopestyle. Vous connaissez le slopestyle ? C'est pas Jean-Marc Morandini qui réunit 10 stagiaires et qui juge. Hein.
Allez Mathéo, montre-moi ton slope. Waouh, trop stylé.
C'est pas ça le slopestyle. Vous avez vu qu'il a pris une nouvelle place, Morandini ? Ils sont en train de se faire un championnat avec Jack Lang. Là, en pédocriminalité sur glace, on a des chances de médaille. Hein. En fait, alors vous mettez un gamin au bout d'une patinoire, vous lâchez les deux et... Allez, concours de slopestylé. Je filme. Jeffrey Epstein m'a donné 50 000 euros pour recruter et payer les acteurs. On va faire un film. Je m'en fous, personne me met en garde à vue. Et en plus, si je vais en prison, j'aurai juste à rester près du radiateur et à laisser tout le plastique en moi fondre et à me glisser entre les barreaux comme le T-1000 dans Terminator 2. Bref, c'est bien fait pour lui. Bref, c'est quoi vraiment le slopestyle? Oui, parce qu'on s'est un peu éloigné du sujet. Bah, c'est une discipline de snowboard. C'est du snow, Apolline. C'est un peu entre le pipe, le half jump, le street blade et le skating. Yeah. En fait, les riders jumpent sur des pipes, en battle jack, bien entendu, pour que leur slope fit bien dans le game et les jackknives de leurs slow blades doivent impérativement rider sur le smooth. Sinon, le flex n'est pas dans les bonnes vibes. En tout cas, c'est l'occasion de finir la semaine avec un petit quiz.
Ah ouais,
attention. Est-ce que ce sport a déjà été programmé aux Jeux Olympiques d'hiver? A gagné un séjour pour 4 personnes, tout frais payé à Courchevel. C'est la direction qui offre. C'est sympa.
C'est sympa, merci.
Attention, vous êtes prêts?
On y va.
Patrouille militaire de montagne.
Oui.
Oui. En 1924, c'était un genre de biathlon.
Dis donc, c'est pas toi, Mathieu.
C'est pas très balèze, mais il a écouté Arthur Chevalier hier. En 1928, il y a eu une épreuve de construction d'igloo synchronisée.
Non,
ils n'ont pas fait. Non, mais tu t'es fait avoir.
C'est dommage, c'est vrai que ça aurait été.
Le pentathlon d'hiver en 1940. Ski de fond, tir, équitation, escrime.
Ouh là là, ça fait beaucoup.
Sur glace.
Escrime sur glace.
Non, ils ont fait. En 48.
Danger.
Escrime sur glace. 400 mètres nage libre en torrent de montagne.
Oui.
Non, ils ont pas fait. Ce serait marrant, mais non.
Pino à moins de.
En 2026, ils ont fait l'épreuve du 10 km voiture dans Paris sous 2 cm de neige.
Ils l'ont fait, bien sûr.
Le record est de 8 jours d'ailleurs. En 1942, l'Allemagne organise des championnats du monde de nazisme sur glace. Sur un lac gelé. En 1992, il y a eu une épreuve de bataille de boules de neige emportée par le Togo.
Non, quand même pas.
En 1936, pétanque sur glace.
Ça s'appelle le curling.
Oui, alors c'est le livestock, c'est un cousin du curling. En 2012, en Russie, il y a eu une épreuve de lutte torse nu contre un ours polaire.
Poutine.
Il y a eu des photos de Poutine. Dans sa ski, 92 à Albertville.
Ils l'ont fait.
C'était tellement beau. Comment tu danses à ski? Il faut regarder le truc. Faut s'appuyer sur les bâtons.
Faut regarder les Jeux Olympiques d'Albertville. Bon week-end. Merci Arnaud. Arnaud qu'on retrouve aussi en podcast à tout moment. Et en tournée partout en France.
Avec un
nouveau spectacle. Il sera à Biarritz, à Lyon, à Tours, à Épinal, à Versailles ou à Besançon. Versailles, vous allez chez vous. Hein,
je vais chez moi.
À la maison.
Je vais en ski.
C'est un spectacle RMC.
C'est la rubrique du grand.
Détendez-vous sur RMC avec Soupe.com, une école du réseau compétences et développement.
Allez, sans transition, on va accueillir tout de suite Corentin qui nous appelle de Tours et qui est conducteur de car. Bonjour Corentin.
J'appelle de Fougères, mais c'est pas grave.
Ah, vous êtes à Fougères. Au moment où on se parle, à 8h21, vous êtes à Fougères. Vous avez déjà pris le boulot, là, à cette heure-ci, Corentin ?
Là, je viens de finir. J'ai rien dans la journée à part mes scolaires.
Donc, on est là. Donc, on est là avec vous. Voilà. Corentin, vous vouliez réagir à la question des jeux vidéo. Faut-il interdire ou non les jeux vidéo ? Est-ce que les jeux vidéo rendent violents ? Vous jouez aux jeux vidéo, vous, Corentin ?
Oui, je joue depuis 6 ans.
D'accord.
J'en ai aujourd'hui 30. Enfin, okay. dans un mois.
Oui.
Donc, perso, niveau jeux vidéo, je connais assez bien. Et j'ai joué à tous les jeux violents possibles, du GTA, Call of, etc., etc. Et je vois pas en quoi ça rend violent un enfant. Jamais il m'est venu l'idée d'aller tenter mon professeur ou aller tabasser quelqu'un parce que je joue aux vidéos, en fait. Et je trouve ça hallucinant que le président veut interdire les jeux vidéo parce qu'il pense ça. Enfin, je comprends pas là-dessus.
Pour vous, il n'y a pas de relation entre les deux. Alors, ce que dit exactement Emmanuel Macron, c'est qu'il faut réfléchir à la possibilité d'interdire aux mineurs les jeux les plus violents. Probablement ceux que vous évoquez à l'instant. Merci en tout cas d'avoir témoigné à l'antenne. Corentin, qui nous appelait donc de Fougères et qui dit que jouer aux jeux violents ne rend pas violent dans la vraie vie. Il est 8h22. Dans un instant, mon invité pour le face-à-face, c'est Jean-François Colosimo, historien spécialiste aussi de la question des religions et qui vient d'écrire ce livre sur l'Occident qui serait désormais la cible numéro 1 mondiale. On revient avec Jean-François Colosimo sur l'opposition mais en même temps les négociations qui commencent aujourd'hui entre États-Unis et Iran. Ça se passe sur RMC BFM TV, il est 8h23.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Merci d'être avec moi ce matin. Vous êtes historien, théologien, auteur de ce dernier livre, Occident, ennemi mondial numéro 1. C'est chez Albin Michel. Et je voudrais également mentionner l'un de vos livres plus anciens, 2009, mais qui est toujours dans l'actualité, Le paradoxe persan incarnait iranien. Il y a depuis 7 heures ce matin des négociations, officiellement en tout cas, à Oman, et le monde entier a les yeux rivés sur ce qu'il va se dire, se passer, ou si quoi que ce soit va en sortir. États-Unis, Iran, dernière négociation peut-être avant qu'il n'y ait des frappes. Tout est prêt en tout cas côté américain, et c'est ce qu'il continue à dire, et ce que Donald Trump a continué à dire cette nuit. Est-ce qu'on peut négocier avec les bourreaux? Est-ce qu'il faut négocier avec des bourreaux? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces négociations?
Alors d'abord, je pense que ces négociations, elles permettent à chaque partie en présence, les Iraniens d'un côté, à les Américains de l'autre, de gagner du temps. Gagner du temps, les Américains pour en fait véritablement décider quel va être leur type d'intervention, n'est-ce pas? Et les Iraniens pour, je dirais, faire monter la pression et essayer d'empêcher cette intervention en montrant la capacité de représailles qu'ils ont et qui est aujourd'hui très très grande et menaçante pour les États-Unis.
Il reste une menace pour vous, les Iraniens. Alors, évidemment, on va ensuite parler de ce qui se passe dans le pays, parce qu'on a presque l'impression que dans cette histoire, le peuple iranien, la révolte iranienne, a été oubliée. Je vais y revenir évidemment dans un instant, mais sur cette question de la menace militaire, de la guerre qu'ils se font pour l'instant de manière froide, mais qui pourrait rebasculer vers une guerre active. L'Iran dit, nous sommes une menace, il y a la question nucléaire, il y a la question des missiles balistiques, et évidemment il y a la question dans la région, des bases militaires américaines, d'Israël, pas très loin.
Oui, alors vous avez parfaitement raison, la menace iranienne, elle tient dans ces fameux missiles balistiques qui font que, en fait, ces missiles, il leur faut 10 minutes en fait pour arriver sur Israël et frapper Israël. Les Israéliens et les Américains s'étaient un peu vantés lors de la fameuse guerre de 12 jours en juin d'avoir éliminé en quelque sorte l'arsenal iranien. Aujourd'hui, ils disent le contraire. En fait, l'Iran garde assez de missiles pour percer ce fameux dôme de fer avec lequel Israël entend se protéger. Deuxièmement, l'Iran met le paquet et explique qu'il y a des chiites partout dans la région et il y a encore ces proxys qui certes sont décapités, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, mais qu'il y a de quoi faire encore pour véritablement mener une politique de terreur qui d'ailleurs pourrait aussi frapper les pays alliés des États-Unis et des États-Unis eux-mêmes sur leur sol. Et puis, il y a le pétrole. Bloquer le détroit d'Ormuz, c'est faire en sorte que, en fait, d'un coup, le prix du pétrole explose, s'envole, et les économies occidentales sont menacées, n'est-ce pas? Donc, il y a toute cette capacité-là, et en fait, ce que veut l'Iran, l'Iran veut simplement que garder son pouvoir de nuisance. Que veulent les Américains? Que l'Iran renonce à son pouvoir de nuisance. C'est ça, le fameux débat qu'il y a là en ce moment à Oman.
Oui, mais alors quand on le présente comme ça, je ne vois pas comment ces deux intérêts absolument antagonistes peuvent se rencontrer.
Tout à fait. Et donc, en fait, ils se rencontrent. Pourquoi? Pourquoi? Ben, encore une fois, pour gagner du temps, pour évaluer aussi les résistances de part et d'autre, les capacités, les facultés de détermination. Et puis, les Américains, leur problème, ce n'est pas de faire de l'Iran un pays démocratique, c'est d'éliminer le guide. Mais pour le remplacer par qui? Alors, on a vu, n'est-ce pas, que lors des manifestations, le prince Pahlavi, à l'héritier du Shah d'Iran, avait une certaine célébrité. Mais les États-Unis ne parient pas sur lui. Les États-Unis, ils ont fait une grande expérience en Irak. Ils ont vu que lorsqu'on élimine le régime Saddam Hussein, on se retrouve avec l'État islamique. N'est-ce pas? Donc là, en fait, il parie sur quoi? Sur un gardien de la révolution qui irait lui-même assassiner le guide pour le remplacer.
Que ça se passe effectivement en interne, en quelque sorte. Question, Jean-François Colosimo, vous parlez du guide, vous parlez des chiites. Est-ce que vous pouvez prendre un instant pour nous redire de quoi il s'agit, de qui il s'agit, comment cette organisation fonctionne et quel est son réseau d'influence?
C'est-à-dire, vous voulez dire le fameux croissant chiite,
République islamique d'Iran. Oui. C'est quoi? C'est qui?
Alors,
et qui en est le chef?
On a tort de dire que c'est une théocratie, parce que ça veut rien dire. C'est un terme vague, très, très franco-français pour dire que c'est religieux. C'est une oligarchie politico-religieuse. Cette oligarchie, elle repose sur quoi? Sur une mutation du chiisme. L'imam Khomeini, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a adopté, en fait, l'islamisme sunnite, l'islamisme des frères musulmans, et il l'a greffé sur le chiisme, il s'est institué, en fait, guide qui dit la loi, loi divine, qui a aussi une valeur, donc, politique, temporelle. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? En fait, à travers la révolution, et à travers la guerre, parce que l'Irak fait 10 ans de guerre en notre nom, l'Irak socialiste, laïque, fait 10 ans de guerre à l'Iran de Khomeini, dans cette révolution et dans cette guerre, un peu comme en 1793, sortent deux aristocraties, deux castes, les mollahs, les clercs, les religieux, et les pasdarans, les gardiens de la révolution, et en fait ces deux classes se répartissent dans un système très compliqué de conseils, de comités qui entourent le guide, etc. Ce sont des mafias qui ont leur clientèle. 25% de la population iranienne dépend de ces têtes de pont mafieuses, n'est-ce pas? Et vous avez ce régime-là qui va être très difficile de changer. Donc il faut en fait quoi? Trouver quelqu'un qui à l'intérieur fera de cette république islamique une république, je dirais, militaro-dictatoriale.
Qui soit moins dure pour sa population, et je voudrais quand même que l'on y revienne, Jean-François Colosimo, parce que c'est le drame aussi de cette séquence, comme on dit, c'est-à-dire de ce moment. Ça a commencé fin décembre par une mobilisation populaire, une mobilisation populaire pour plus de pouvoir d'achat, pour plus de liberté, pour pouvoir effectivement retrouver une liberté. Déjà, il y avait eu, avant cela, le mouvement Femme, Vie, Liberté. Et à chaque fois, ce sont des massacres, ce sont des gens qui sont ciblés. Comment est-ce qu'ils peuvent, d'eux-mêmes, sans l'aide extérieure, renverser ce régime?
Et sans aide extérieure, c'est impossible, pour la simple et bonne raison que les gardiens de la Révolution, dans toutes les grandes villes, tiennent des casernes, n'est-ce pas, et reposent, en fait, eux-mêmes, les gardiens, sur un surarmement total, et eux, ils ont envie de rester au pouvoir, évidemment, encore une fois, c'est la source de leur prospérité mafieuse, ils reposent sur des milices, les Basijis, qui encadrent la population de manière permanente.
On les a vus, c'est ceux qui sont sur les motos, qui viennent, qui tirent,
les jeunes,
les gens
effectivement,
qui tirent même dans la foule.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que malgré tout, vous êtes face à un Iran qui est un pays, il faut le rappeler, formidable. 3000 ans de civilisation, c'est pas un petit pays, c'est pas, je veux dire, et puis il y a ce culte de la liberté qui est mêlé aussi à un culte du martyr. Regardez ces femmes, le courage. Regardez ces civils, n'est-ce pas? Mais attention, ce culte du martyr, cette culture du martyr, elle est de l'autre côté aussi.
Du côté des guides suprêmes, du guide suprême, du côté des pasdarans, c'est aussi dans cette logique-là.
Il y a un cercle très fort autour du guide, c'est ce qu'on appelle les Ojadiyeh. C'est une secte qui est née en 1950, qui attend le retour du Mahdi, le retour de l'imam caché, le retour
une sorte de messie,
l'arrivée de Dieu sur terre, un messie. C'est un messianisme apocalyptique. C'est-à-dire que le Messie va arriver dans une immense déflagration, et je vous donne en mille qui était l'un des grands patrons de ce groupe initiatique. C'était Mahmoud Ahmadinejad. Vous vous souvenez, le fameux président qui niait la Shoah, qui était un jusqu'au-boutiste dans la guerre, etc.
Le lien que vous faites quand vous dites qu'il était, qui niait la Shoah, il y a la question, évidemment, de l'antisémitisme intrinsèque
du régime. Pas du peuple.
Du régime, évidemment, du régime islamique d'Iran. Est-ce que dans ce contexte-là, le fait qu'Israël n'ait pas l'air de pousser les États-Unis à intervenir, comment vous le lisez?
Mais c'est assez simple, c'est que Israël n'a pas envie de prendre les représailles iraniennes de plein fouet, parce que ces représailles iraniennes sont encore trop importantes. Il faudrait donc une campagne de bombardement plus sûre que la dernière pour, en quelque sorte, décapiter la nuisance iranienne. Et puis, il y a les pays alentours.
L'Arabie Saoudite.
Les Émirats. Tout ça, ça se passe à Oman, qui est une plaque tournante de la diplomatie dans la région. Parce qu'il y a eu un chef d'État formidable qui, a su faire d'Oman d'abord un pays très particulier qui respecte ses traditions. C'est pas Dubaï, c'est pas Abu Dhabi, c'est Oman est une grande tradition de commerce avec l'Inde, vous voyez. Et donc, par rapport à ça, cette Oman, il a su en faire un pivot non partisan dans une région où il n'y a en fait que des passions exacerbées. Et donc, on se rend à Oman pour parler. Là, on ne peut pas en fait parler ailleurs.
C'est le dernier endroit où les uns et les autres peuvent donc se parler.
Oui, mais regardez bien tout de même que les Saoudiens, par exemple, ont interdit, en principe, aux Américains la traversée de leur espace aérien. Ce qui veut dire que toute la région tremble, en fait, véritablement d'une espèce de tourmente un peu apocalyptique tout de même.
La région tremble, il y a cette menace apocalyptique comme vous dites. Jean-François Colosimo, je voudrais en revenir aussi au titre de votre dernier livre, Occident, ennemi mondial numéro 1. Est-ce que cette tension que vous décrivez aussi dans votre livre, elle est à l'œuvre y compris sur ce territoire-là?
Oui, c'est-à-dire que sur ce territoire-là, on voit bien, parce que c'était ça aussi, cet Occident, il n'existe pas, il n'existe plus en tout cas, l'Amérique ne joue plus le jeu de la défense de la démocratie dans le monde, c'est officiel, enfin, et nous voyons bien, nous disons, ces gars de la Révolution sont des totalitaires, ils le sont, ils ont massacré 30 000 personnes en quelques jours, c'est impossible. Eh bien, Trump s'assoit là-dessus. Ce qu'il veut, c'est la puissance américaine retrouvée, la domination américaine retrouvée, et les Iraniens passent par pertes et profits.
Quand vous dites, ce sont des totalitaires. Est-ce que vous relisez aussi, vous avez parlé aussi de la question de la Shoah. Est-ce que on est aujourd'hui face à un moment où l'envie est celle d'exterminer ses ennemis? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve cette logique-là?
Écoutez, vous avez parfaitement raison. Regardez. Poutine, regardez Erdogan, regardez Khamenei, regardez Xi, regardez aussi Modi en Inde, n'est-ce pas? L'autre qui ne me va pas, il doit disparaître. Et en fait, vous êtes face à une apologie du règne de la force. Lorsqu'on était en pleine guerre froide, l'Union soviétique s'excusait, n'est-ce pas, faisait semblant, mine de s'excuser lorsqu'il y avait en fait des bavures monumentales, des massacres, etc.
C'était camouflé, c'était caché, là c'est presque revendiqué.
Tout le monde respectait le langage de l'universalité. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul langage, c'est le langage de la force. Or le problème que nous avons, nous, c'est que l'Europe est sans force.
L'universalité, c'est fini. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire?
L'universalité, ça veut dire, vous voyez, que où que vous alliez dans le monde, quelle que soit la culture que vous rencontriez, vous aviez dans l'idée que la personne qui était en face de vous, elle avait la même valeur et la même dignité que vous, n'est-ce pas? Croyez-vous que Vladimir Poutine pense que les Ukrainiens ont une valeur égale à lui? Non. Et pensez-vous que Xi Jinping pense que les Ouïghours qu'il persécute, qui sont ces turcophones musulmans de Chine, qui sont égaux à lui? Non. Alors évidemment, cette égalité a toujours été un combat, ne rêvons pas. Mais elle était un principe. Aujourd'hui, ce principe est jeté aux orties, et c'est ça la fin de l'universalisme, et nous devons le défendre, parce que nous y croyons toujours, et nous pensons que c'est la clé de l'humanité, Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens.
Est-ce qu'on peut réveiller?
Et nous en sommes loin.
Et est-ce qu'on peut remettre effectivement l'universalisme comme un idéal? Vous avez tout de même dit, Jean-François Colosimo, le problème, c'est que face à cela, nous sommes faibles. Est-ce qu'on a les moyens de lutter?
On a les moyens de lutter, surtout si on, je dirais, si on a une politique volontariste. Vous voyez, vous regardez comme nous nous sommes réconciliés avec l'Angleterre, qui est l'autre puissance nucléaire. Peut-être pas tout à fait égal à nous, mais bon, les deux puissants nucléaires, les Anglais, il y a eu le Brexit, mais ils reviennent avec nous pour défendre cette, malgré tout, cette vision du monde. Voilà. Maintenant, le véritable carburant, je dirais, de la dénonciation des totalitarismes, des autoritarismes, de cette logique de la force, le véritable carburant, c'est le courage, n'est-ce pas? Ben là, regardons les femmes iraniennes, elles ont un courage que, malheureusement, nous n'avons pas.
Que nous n'avons pas. Vous dites aujourd'hui, nous n'avons plus ce courage.
On peut le retrouver peut-être demain, aujourd'hui, mais il va falloir se réveiller et savoir qu'est-ce que nous voulons. Et si nous ne nous réveillons pas, nous subirons.
Ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'il y a au fond deux combats parallèles. Il y a le combat des armes, effectivement, et vous n'hésitez pas à dire quels sont les rapports de force sur le terrain, les réalités des uns et des autres. Et puis, il y a un autre terrain de combat qui est le terrain des valeurs.
Absolument, ou je dirais des principes, parce que vous savez, le point de la valeur, c'est que la valeur, elle n'en a pas. C'est à la bourse, la valeur, ça monte et ça descend. Les principes, mais je dirais tout simplement aussi à cette conviction que nous avons, nous, en Europe, parce qu'il y a eu des pages terribles en Europe, des pages sombres, des pages abyssales, n'est-ce pas? Mais la conviction de l'Europe, c'est que l'humanité est facilement en risque d'inhumanité. On devient très facilement inhumain. Donc il faut prévenir cette capacité d'inhumanité. Et pour ça, il y a une chose, c'est toujours de savoir demander pardon pour ce qu'on a fait de plus mal. Et l'Europe a fait beaucoup de mal. Mais nous avons demandé pardon.
La question du pardon, un mot encore Jean-François Colosimo sur les liens entre l'Iran et la France. Il y a bien sûr une grande part de diaspora, on entend régulièrement, y compris sur ce plateau, des témoignages de gens qui ont de la famille là-bas, qui luttent. Mais il y a aussi, semble-t-il, des influences du régime iranien, y compris ici. Ont-ils des relais dans l'opinion? Ont-ils des relais dans le monde des affaires? Ont-ils des relais dans le monde du pouvoir?
Bien entendu, l'Iran est très très fort. L'Iran... souvent d'ailleurs, il faut le dire, à travers l'Algérie, qui joue le jeu de l'Iran dans ce cas-là, cherche à déstabiliser la France, n'est-ce pas? Enfin, le régime iranien, soyons clairs. Et en même temps, vous voyez, l'histoire entre l'Iran et la France, elle est si importante qu'il faut tout de même se rappeler, bon, c'est un peu, c'est pas poids de cuistre, que le plus grand connaisseur de l'Iran chiite, qui a révélé aux Iraniens eux-mêmes ce trésor qu'est le chiisme, spirituel, mystique, mais artistique aussi. Hein, les enlumineurs personnes qui donnent le cinéma iranien, si formidable. Hein. Eh bien, c'est un Français, il s'appelait Henri Corbin, et il a vécu en Iran pendant une trentaine d'années, et c'est lui qui a assuré, et aujourd'hui encore, même le régime n'a pas osé l'enlever, il y a une rue, une avenue Henri Corbin à Téhéran.
Il y a donc ces liens historiques, et vous le dites, artistiques, d'humanité aussi, entre la France et l'Iran, mais vous dites aussi que le régime iranien continue à avoir des relais d'influence.
Absolument.
D'abord à travers ses alliés comme l'Algérie, mais est-ce qu'en France, il faut se dire,
oui,
est-ce qu'il y a des espions iraniens? Est-ce qu'il y a une présence iranienne?
Bien entendu, il y a d'excellents livres publiés là-dessus, encore récemment.
La pieuvre de Téhéran, peut-être, c'est à cela que
voilà,
vous faites référence.
Mais comme j'en ai été l'éditeur, j'avais du mal à le dire.
Bah je le dis pour vous, alors.
Voilà, bon... et c'est un excellent livre, il dresse le compte de toutes ces influences. Alors évidemment, il y a aussi des idiots utiles, des gens qui pensent que en étant du côté de l'Iran, ils luttent contre l'impérialisme ou je sais trop quoi, toutes les vieilles lunes de gauche et gauchistes, n'est-ce pas, fonctionnent aussi. L'anti-américanisme, là, est un puissant levier pour une fascination à l'égard de l'Iran, qui est une fascination perverse et qui est fausse, il faut le dire, voilà. Le peuple iranien mérite tellement mieux. On a tellement envie de retrouver ce peuple avec toutes ces immenses qualités qui sont indispensables au réveil de la région.
Au réveil de la région et au réveil, comme vous le dites, des principes aussi de l'universalisme. Merci Jean-François Colosimo. C'était passionnant. Vous êtes historien, théologien. Je voudrais rappeler le titre de votre dernier livre, Occident, ennemi mondial numéro 1. C'est aux éditions Albin Michel. Merci à vous. Il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Restez bien sur RMC dans un instant. La semaine face à Canteloup. Marine Le Pen peut être inéligible. Nicolas Canteloup revient sur l'info de la semaine.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Cette semaine, Roland Lescure, le ministre de l'économie, était mon invité dans le face-à-face. Et Emmanuel Macron voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Salut mes fans. Salut, oui, bah oui, pour vous, je remets les lunettes de beau gosse. Hein. Même si j'en ai plus besoin, vous avez vu, malheureusement, je suis guéri. Voilà, c'est le problème. C'est con parce que j'avais pris une popularité de ouf. Je vais faire confidence à Pauline ce matin. J'ai failli me remettre du tabasco dans les yeux.
Mais non.
On pourra les remettre. Bon,
alors, monsieur le président, un mot sur Roland Lescure.
Écoutez, je tenais à saluer Roland, c'est mon gars solide, hein, sur qui je peux compter, mon gars qui va faire disparaître la dette, hein, hein mon Roland, hein, t'as un an pour nettoyer le bordel, hein, c'est pas non plus, c'est pas non plus mission impossible.
Ah, mission impossible, je l'ai, rapport aux lunettes, ça paraît quand même ambitieux, hein, franchement.
Ben, entre vous et moi, bon, ben, si mon Roland n'arrive pas, c'est pas très grave, hein, comme d'hab, on mettra tout sur le dos de Bruno Le Maire, hein. Et moi, je vais finir mon mandat tranquillou sur l'international, je préfère, hein, on sait en débiter une troisième guerre mondiale, voilà. Ben oui, vous savez, héros du monde libre, sur un CV, ça sonne mieux que le gars ou ce qui est marqué sur la carte de visite, a réussi à faire augmenter le PIB de 0,83%.
Merci, monsieur le président. Roland Lescure, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Écoutez, là. Écoutez, la première chose à retenir, nous avons des bons chiffres. Les chiffres que sont-ils? On est passé de 0,7% à 1%. Ce sont des très bons chiffres. Et nous avons baissé le prix de l'électricité, il faut le retenir dans la merde. De 9 euros. 9 euros. Non, 9 euros, non, par an. Hein, c'est quand même 75 centimes par mois.
Hein, ah ouais.
Il faut arrêter dans ce pays de se flageller sur un grand bordel vert à moitié vide.
C'est pas le vert à moitié vide,
c'est les caisses qui sont à moitié vides. Les caisses sont à moitié vides. Moi, pour récompenser les équipes de Merci, toutes les équipes de Merci, je leur ai dit, on a les bons résultats, je vous donne, vous partez en congé. Voilà. Je leur ai donné 10 minutes de congé. Ils sont partis sur des belles destinations. La machine à café, les toilettes, le distributeur de friandises. Voilà, faut récompenser les équipes.
On sent que vous êtes un optimiste de nature, Roland Lescure. Vous pensez que le gouvernement et vous-même, vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin du quinquennat?
Mais oui, on va tenir. Avec le gouvernement, on va tenir. Au moins jusqu'à la prochaine guerre mondiale. Optimiste, voilà.
Vincent Moscato arrive. Vous vouliez également réagir à la
politique
de Roland Lescure. Ah, bonjour Vincent.
Oh, quel stress, super Moscato Show.
Les locaux, on a le ministre de l'économie et finances, il débarque, le gosse, il faut qu'il trouve 3000 milliards de pognon. Je l'ai croisé en l'eau, il cherchait la monnaie, tu vois, la machine à café, mais je me suis la main, j'ai quand même reconté mes doigts. Tu vois, le mec, il te pique tout, tu vois. Et là, le slip, le portefeuille, j'ai plaqué le slip. Précaution. Les mecs, les patrons à BFM Business, tout plaqué sur la table, ils disent que je cache tout le ministre de l'économie partout.
Voilà, franchement.
Ah ben oui, bah attends, on risque le contrôle fiscal, nous, RMC. On fait un pognon de dingue, on risque le contrôle. Pour petit déjeuner, t'as vu, ils ont supprimé toutes les viennoiseries. Faut faire pitié. Donc, ils ont acheté chez Lidl, ils ont acheté de la margarine et du pain demi-périmé, on dirait du carton. Pitié dans le parking souterrain, plus de bagnole, Unix. La Porsche d'Orelgate, disparu. La Jaguar de Marshall, prié. La Bentley de demain, j'ai prié. La Rolls Royce, le chiffre, prié. T'as vu juste la Fiat Panda de Texel. Et bien sûr, la bétaillère d'Apolline, parce que quand même, il faut qu'elle transporte ses 4 boutas.
Marine Le Pen a donc dû affronter les réquisitoires du procureur, des réquisitoires d'une sévérité exemplaire.
C'est formidable. Formidable, ça fait plus de 20 ans, Madame Malherbe, et que je suis en politique, que je réclame à corps et à cri et des peines exemplaires, plus de sévérité de la justice. Personne, jamais personne ne m'a jamais écouté. Et là, comme par hasard, c'est moi qui suis dans le box des accusés, et là, la justice découvre la sévérité. Merci, mesdames, messieurs les juges.
Bon, en tout cas, c'est fichu pour l'Élysée, là.
Oui, attendez, comment c'est foutu pour l'Élysée? Attendez, pour 2027, je suis d'accord avec vous. Attendez, il y a 2032.
Ah, oui, hein, c'est vrai. Oui.
Alors, Jordan, il prend le job en 2007, mais maman reprend la boutique en 2032.
Ah, voilà. D'accord.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis trop vieille, c'est ça?
Non,
Non, mais écoutez, en 2032, j'aurai 63 ans, voilà. Voilà. Oui, mais 63 ans, mais en politique, excusez-moi, on est à peine pucelle à 63 ans.
On revient à présent sur les réquisitions donc au procès de Marine Le Pen avec Jean-Louis Borloo. Bonjour, Jean-Louis
Borloo.
Vous êtes ancien avocat
d'ailleurs. Hein. Oui, mais oui, mais c'est quoi ce bordel de jugement, Mme Le Pen? Mais il y a des intelligentes sur cette table, mais on n'y comprend que dalle. T'ouvres une chaîne info, une radio, la vote, une note, on s'en fout. Si t'as pas un doctorat en droit, t'es condamné. Tu comprends rien, t'es condamné à regarder Gulli, voilà. Même moi, pourtant, je suis avocat, j'ai le diplôme. Bon, je sais pas où j'ai foutu, mais enfin bon, bref. Hein, mais je suis paumé. Mais il y a des cours, on ne comprend rien au jugement. Il y a des cours d'appel, des cours de cassation, des cours européennes d'appel, de cassation, des droits de l'homme européens. Il y a de la prison ferme, du sursis ferme sous bracelet, des exécutions immédiates, des exécutions différées, des exécutions. Il dort déjà, Texer. Des exécutions provisoirement immédiates à effet différé. Mais c'est imbitable, pardon, on comprend rien, mais pardon, mais les faut me simplifier ça, les enfants. Moi, depuis tant, moi, quand j'étais avocat de Bernard Tapie, Marshall, il le sait, j'étais avocat de Bernard Tapie. Moi, c'était simple, à l'époque, tu payais 200 000 balles, t'allais 6 mois en cabane, c'était clair, voilà, fin du jugement. Aujourd'hui, c'est tout juste si on dit pas, si le juge à Mercure en Verseau, ce sera applicable que pour les prévenus Capricorne du deuxième décan. Non, mais
non, c'est sûr.
Il y a juste un truc, Pauline de Malherbe. Il y a juste un truc où c'est clair. Si tu bosses chez CNews, là t'es sûr que ta condamnation ne t'empêchera pas de continuer à bosser.
Merci Nicolas, Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC. Dans un instant, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal?
Eh bien, dans les GG, dans les grandes gueules, nous discuterons de la pression qui est mise sur Jack Lang, la pression politique. Jack Lang qui est cité plus de 600 fois dans les dossiers Epstein. Est-ce qu'il doit quitter l'Institut du Monde Arabe? Jack Lang, lui qui plaide la naïveté, c'est ce qu'il dit vis-à-vis de Jeffrey Epstein. On parlera aussi de ce sondage. Un tiers des Français ne trouverait pas anormal qu'on torture pour obtenir des aveux. Est-ce que vous êtes choqué ou pas? Là encore, vous venez en discuter avec nous au 32-16. Emmanuel Macron, le président de la République, qui dénonce l'impact des jeux vidéo chez les plus jeunes, il aimerait une étude, et si jamais c'est avéré, eh bien on interdit ces jeux vidéo. Et puis nous recevrons le député Les Républicains, Philippe Juvin. Est-ce que Les Républicains est un parti mort clinique? On verra le diagnostic du docteur Juvin. Allez, les grandes gueules, c'est de 9h à midi avec vous au 32-16.